Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 3 de Vue du Banc, un épisode qui sera en grande partie consacré au championnat étranger avec un peu de Ligue 1 au début. Et pour cet épisode, on retrouve l'équipe type de Vue du Banc avec Raphaël Kosmidis. Salut Raphaël.
Salut Florent.
Christophe Kuchli qui fait son retour et qui n'a pas signé à l'étranger. Il est resté chez nous. Salut Christophe.
Absolument. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël.
Et... Très bon bonjour pour démarrer, on se met bien pour démarrer. Et on va démarrer tout de suite de toute façon avec la Ligue 1 avant d'aborder la Super Coupe d'Espagne, la Liga, la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga en fin d'émission. Raphaël, on va passer rapidement sur le championnat de France vu qu'on a un premier épisode qui a été quand même assez largement consacré, il n'y a pas grand chose de nouveau depuis. Mais il y a quand même un truc de nouveau côté PSG, on n'en avait pas parlé dans la première émission, on avait fait un peu exprès. C'est les débuts de Neymar, on l'a enfin vu sur un terrain, qu'est-ce qui s'est passé face à Guingamp, dis-nous tout.
Il s'est passé ce qui s'était passé contre Amiens, mais en un peu mieux, parce que Neymar était sur le terrain. Alors contre Amiens, on avait parlé déjà d'un peu de la capacité du PSG à réussir des combinaisons courtes dans le camp adverse pour créer un décalage. Il l'avait fait avec Pastore, avec Di Maria lors du premier match. Cette fois, ils l'ont fait avec Neymar et Di Maria, et on a vu très très vite l'importance qu'a pris le Brésilien, surtout à l'intérieur du jeu. Alors Emery a décidé d'opter pour sa première, pour le même 4-3-3 qu'il a finalement privilégié depuis son arrivée au PSG. Neymar a pris la place de Pastore sur l'aile gauche, mais finalement vraiment à l'intérieur. Et sa qualité dans les petits espaces, sa capacité à s'orienter vers le but adverse sur n'importe quel contrôle a été vraiment impressionnante et a beaucoup apporté au PSG. On a vu notamment sa volonté de s'appuyer sur l'attaquant. Alors avec Cavani, ça n'a pas toujours été simple, mais au moins, il y a beaucoup plus de mouvement. On a vu sa capacité à se démarquer aussi, avec rien qu'en un appel contre appel entre les lignes, il arrive à se libérer 1 ou 2 mètres pour toucher le ballon. Ça, c'était vraiment intéressant. Et moi, ce que j'ai trouvé, mais c'est un ressenti qui est très subjectif, c'est que sa présence a relevé le niveau d'exigence chez tous les joueurs autour de lui. Je trouve que le ballon circulait beaucoup plus rapidement que contre Amiens, par exemple. Que les milieux ont été un peu plus imprévisibles. Même Mota s'est projeté parce qu'il pouvait s'appuyer sur Neymar qui lui rendait le ballon entre les lignes. Donc on a vu très souvent, enfin, par rapport à d'habitude en tout cas, un Mota qui venait dans les 20-25 derniers mètres. On a vu des passes vers l'avant de Thiago Silva, mais vraiment à l'intérieur du jeu. Alors ça, c'est très très rare au PSG depuis qu'il est là, finalement. Et il en a claqué 2-3, soit pour Neymar, soit pour Di Maria. Et puis on a vu aussi, et Neymar en a fait partie, on avait dit ouais, il va venir au PSG pour être la star, pour arrêter de défendre comme il le faisait au Barça. Mais il a participé à l'effort défensif du PSG, notamment au pressing à la perte. Et dans l'ensemble, je trouve que ces deux premiers matchs, au-delà de l'arrivée de Neymar, mais aussi à travers son intégration, montrent que Paris commence très très bien la saison, alors que bizarrement, la prépa n'était pas rassurante.
Christophe, sur cette arrivée de Neymar, du coup, tu ne l'as pas vu, toi, face à Guingamp ?
Non, j'ai vu quelques images, ça et là, en tournant la tête, mais pas... J'ai vu Neymar dribbler plein de gens, mais j'ai pas vu le match en entier.
Oui, d'ailleurs, a priori, il a démarré avec en termes de dribble réussi, je crois qu'il est déjà dans le top 3 depuis qu'Opta a pris.
Il est à 11 sur 16 sur le match. Et il crée cette occasion.
Je crois qu'il y a que Dembélé et il y a un deuxième joueur, je crois, qui ont déjà fait mieux sur un match. Donc voilà, un début plutôt bon. Mais bref, Christophe, cette arrivée de Neymar, tu l'imagines. Dans quel système, dans quelle organisation? À gauche, dans l'axe, milieu à 3, milieu à 2 derrière. Évidemment, ça va dépendre aussi du reste du mercato parisien, parce qu'a priori, il pourrait faire d'autres joueurs d'ici le 31 août.
Si tu fais Mbappé, ce que je comprendrais pas d'un point de vue tactique et même d'un point de vue marketing, puisque maintenant que tu as fait Neymar, tu n'as plus forcément besoin de frapper un grand coup. Ça t'obligerait quasiment à jouer avec deux attaquants axiaux. Pour moi, avec Mbappé et Cavani, j'imagine mal l'intérêt de prendre Mbappé si c'est pour le foot sur un côté. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui feraient mieux et ça serait un petit peu gâché, quoi.
Tu le vois pas, par exemple, alors je pars dans une théorie un peu bancale, mais le placer sur l'aile droite dans un 4-3-3, mais en fait il marquerait beaucoup de buts en partant dans la profondeur sur le diagonal de Neymar. Un peu comme Messi avec David Villa à une époque, si tu vois à peu près ce que je veux dire.
Ou Ronaldo, quand Ronaldo jouait sur l'aile, mais qui prenait toujours la profondeur pour finir.
Qui reprenait la profondeur sur une passe de Zil ou une passe de Di Maria de l'opposé, tu vois. Ça me paraît pas impossible, par exemple.
Alors, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, ce dont j'ai peur, c'est que puisque le PSG va quasiment toujours jouer face à des blocs bas, que tu n'es pas forcément tant de profondeur que ça à exploiter, et qu'autant le Neymar dans les petits espaces, tu puisses un peu casser des blocs et avoir un Cavani qui en profite grâce à ses déplacements. Autant les boulevards, encore là, Monaco, ce week-end, ils ont eu des. Même si, bon, Mbappé jouait pas, mais disons, l'adversaire de Monaco, Dijon, a laissé des boulevards en contre-attaque, alors que Paris n'a quasiment jamais ça exploité. Donc, j'ai peur que ça soit un petit peu gâché, et qu'autant en Liga, ça pourrait fonctionner. Autant qu'en Ligue 1, les équipes, peu importe, même mener 1-0, restent en bloc, et qu'au final, t'es pas tant de profondeur que ça à exploiter, finalement.
Après, sur du long terme, si tu te dis que Mbappé, tu le prends pour 10 ans et pas pour 2 ans. C'est un attaquant qui est destiné à remplacer Cavani en pointe, je pense, parce qu'il a aussi cette qualité pour combiner dans les petits espaces. Et donc, si après tu pars sur un Neymar, Mbappé, plus un troisième joueur dans ton secteur offensif, quel qu'il soit, pour l'après Cavani, ça me paraît plutôt cohérent. Ils le font peut-être un peu tôt, mais le truc, c'est que si tu le laisses filer, tu le récupéreras pas, quoi.
Et puis Mbappé, ça peut devenir ta star dans 2 ou 3 ans quand tu vendras Neymar au Real, au final. Voilà. Quand on aura marre de régler le père tous les étés et d'augmenter tout le monde.
S'il partira au Shanghai Shenhua ou un truc comme ça.
C'est vrai. Après, oui, forcément, enfin, le risque, c'est que ça se marche un petit peu sur les pieds avec Cavani pendant 1 ou 2 ans. Là, Cavani, il atteint la trentaine, donc on peut estimer qu'il a 1 ou 2 saisons devant lui, mais malgré tout, 1 ou 2 saisons, ça peut quand même être long. Et est-ce que Mbappé pourrait se satisfaire d'un rôle un petit peu dans l'ombre, ou Cavani se satisfaire d'être à nouveau exilé sur le côté, je ne sais pas. Toujours est-il que, pour en revenir à la question sur Neymar, je pense que elle se pose, elle se pose pas, dans la mesure où que tu le mettes dans l'axe ou sur le côté, ça va toujours être quasiment le meilleur joueur de ton équipe. Après, je pense que justement, c'est pour ça que je parlais de Mbappé, ça dépendra vraiment des profils qu'il y a autour. À mon avis, le mieux, c'est peut-être qu'il commence un peu côté gauche, mais qu'il n'hésite pas à repiquer dans l'axe. Après, il faut voir si ton latéral gauche peut monter facilement ou pas. Kurzawa, c'est peut-être un petit peu moyen pour occuper l'espace si Neymar se recentre. Après, là où il touchera le plus de ballons, ça sera le mieux. Le tout, c'est vraiment de l'impliquer. Mais je me fais pas de grands soucis pour Neymar. Je pense pas que la question de se dire est-ce qu'il est côté gauche ou est-ce qu'il est dans l'axe, ça va changer fondamentalement l'équipe.
Allez, on enchaîne. Après le PSG, on va passer au LOSC. Raphaël, on avait été très élogieux envers le LOSC la semaine dernière, et envers notamment la performance de Thiago Mendes au milieu de terrain, qui avait convaincu tout le monde, et aussi Christophe, qui n'était pas là, mais qui avait été convaincu notamment pendant la préparation. Christophe, c'est avec toi qu'on va parler de ce Strasbourg-Lille, match très spécial, avec donc Thiago Mendes qui se blesse au bout de 12 minutes, je crois, si j'ai bien suivi.
C'est ça.
Et une équipe de Lille, moi je n'ai pas vu le match personnellement, mais a priori complètement catastrophique.
Oui, alors en fait, ce qui inquiète un petit peu, c'est que Strasbourg a joué totalement différemment de Nantes, en étant beaucoup plus agressif au pressing, en jouant beaucoup plus haut. C'est surtout ça, en fait, à la limite, faire un pressing, pourquoi pas, mais là, c'était pas un pressing fait de multiples courses où tu sens que les gars se crèvent vraiment, comme par exemple tu pouvais le faire contre le Barça à la grande époque, où tu te disais oui, ça presse, mais il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est mobilisée, au bout de 45-50 minutes ça va commencer à fatiguer. Là, en fait, le pressing, c'est simplement que le bloc strasbourgeois évoluait très haut, donc finalement c'est simplement le positionnement des joueurs qui faisait que tu étais un petit peu pas acculé dans ton camp, mais que tu avais du mal à construire. Et souvent les circuits de relance, c'était Maignan qui jouait sur Amadou, sur une passe verticale, Amadou qui revenait à 20-25 mètres de son but, mais qui était dos au jeu, et le pressing l'empêchait de se retourner, donc il était obligé de remettre sur Maignan, qui était obligé ensuite de donner à l'un des deux axiaux qui était Ié et Alonso. Enfin, toujours est-il que tu ne pouvais pas mettre en place ta première relance. Et le problème, c'est que Mendes, bon, déjà le début de match était un petit peu compliqué, mais en plus Mendes sort au bout de 12 minutes, alors que c'était quasiment le joueur clé du premier match, puisque c'est lui qui, à la fois, qui lançait les attaques, mais qui en plus coupait un petit peu les transitions adverses, qui étaient toujours un petit peu difficiles à gérer, puisque tu étais souvent en égalité numérique. Lui, il arrivait à combler ça avec l'aide d'Amadou. Avec lui qui n'était pas là, qui pouvait à la fois couper les offensives et les lancer, tu avais Bissouma, qui est un très bon joueur, mais qui, là, pour le coup, est un petit peu passé à côté. Et globalement, tout le monde est passé à côté. Alors, le pire, je pense que c'est Balotouré, c'est ça, j'ai pas trop compris. Bon, sur Twitter, à la limite, qu'on mette des tacles à Bielsa, pourquoi pas. Sur ce match-là, il a effectivement été bouffé par le pressing de Loré, et son équipe a jamais pu poser le pied sur le ballon. Et puisqu'il refuse de sauter les lignes et de faire monter le bloc au pressing, et qui veut absolument construire, bah, si t'arrives pas à construire et que tu te fais prendre à chaque fois dans ton camp, bah forcément ton équipe est un petit peu coincée. Mais là où j'ai pas trop compris les attaques, c'était sur la sortie de Balotouré qui te prive d'un changement supplémentaire parce que t'avais déjà eu deux blessés en début de match. Mais le début de match de Balotouré, excusez-moi, est catastrophique. C'est l'un des pires mi-temps, enfin j'allais dire match, mais il joue une grosse demi-heure. C'est l'une des pires mi-temps que j'ai vu de la part d'un joueur en Ligue 1. Et je précise, d'un joueur n'ayant pas été impliqué sur des buts, parce que des fois, tu as des Viscarondo ou autres qui vont provoquer.
Daniel Combré a réalisé des très grandes, périodes de football.
Mais c'est des gens qui sont coupables sur des buts, si tu veux. C'est, je provoque un penalty, puis derrière, j'oublie un marquage. Donc forcément, tu n'as même pas loi sur le premier match. Tu te dis, le gars est coupable sur un ou deux buts, donc forcément, ça plombe sa performance. Là, Balotouré, il n'est même pas coupable sur un but, c'est juste que tout ce qu'il fait est ridicule. C'est des transversales tribune opposée, c'est des passes en retrait trop courtes, c'est un carton jaune ridicule, il manque de se prendre un deuxième jaune. Donc après, l'erreur, effectivement, c'est de le titulariser alors que Kouamé a fait une super entrée au premier match. Et tu dis, pourquoi réinstaller Balotouré qui en plus n'était pas indiscutable en préparation? Mais là, il fallait absolument le sortir, quoi. C'était,
Les attaques déjà oublient complètement le fait que Maignan fait un truc débile, quoi.
Voilà, c'est ça.
Cornier n'est pas non plus. Il arrive pas comme Pépé dans son classico 2012, quoi. Cornier, il veut récupérer le ballon vite pour que ça joue et Maignan lui met un ballon dans la tête. Enfin. Tout est débile, quoi. Tout est ridicule parce que il y a aucune intensité dans l'embrouille. Mais en effet, quand tu vois un geste comme ça, t'es l'arbitre. C'est bon, sort. Ouais. Et même lui ne pense même pas au fait qu'ils vont être à 10 s'ils sortent et sans gardien. Après, c'est dans le feu de l'action et c'est difficile de juger les footballeurs dans ces cas-là. Mais enfin, ne faut pas évacuer le fait que au départ, c'est quand même Maignan qui en plus avait fait un super match jusque-là. Qui fait une erreur vraiment idiote et qui gâche ses performances depuis le début de la saison. Il y a de la concurrence cette année, donc ça peut avoir des conséquences vraiment négatives pour lui.
En tout cas, ouais, LOSC très décevant au-delà du score, parce qu'au final, peut-être pas 3-0, mais t'as au moins 1 ou 2-0 qui doivent arriver avant l'expulsion, parce que Nuno Da Costa il enlève un but à Saadi et t'as Maignan qui fait plusieurs parade énorme. Et ce qui peut faire un peu peur, alors après à voir, mais c'est que si dès que on te presse et dès que Thiago Mendes n'est pas là, bah tu te retrouves acculé dans ton camp, parce que là le milieu adverse, alors c'était sympathique, mais c'était Cornier qui est un bon joueur de Ligue 1, Jonas Martin qui revient en Ligue 1, qui pareil je pense est un bon joueur de milieu de tableau, et le fantastique Jean-Eudes Aoulou qui fait un match incroyable, alors que c'est quelqu'un qui vient de la CFA du LOSC et qui jouait dans les divisions inférieures ensuite. Alors c'est peut-être un bon joueur qui va se révéler, mais ça reste que Jean-Eudes Aoulou. Donc si déjà tu souffres à ce point-là contre une équipe, on va dire moyenne, qui pour moi va faire Strasbourg est destiné à faire vers la 12-13e place, bah, qu'est-ce que ça sera si tu te retrouves face à Rabiot, Mota, face au milieu monégasque ou autre? Et ah, même au plus en parler de ça, t'as vraiment beaucoup d'équipes. Enfin, Saint-Etienne, par exemple, quand Saint-Etienne arrivera au pressing face à Lille, si tu sais pas t'en sortir, tu peux avoir des matchs assez longs.
Le plus inquiétant, c'est surtout que Mendes va être absent au moins un mois et qu'on voit pas pour l'instant de joueur capable d'imiter son rôle dès ce début de saison. Alors Thiago Maia, en effet, une bonne qualité de passe, mais je trouve que défensivement, il y a un univers d'écart entre lui et Mendes. Mendes arrive à couvrir de grands espaces et Thiago Maia, c'est pas du tout ça. Et ensuite, si tu mets un Madou au milieu, bah, tu vas retrouver cette intensité à la récupération, mais tu auras beaucoup moins de qualité dans l'orientation du jeu. Et ça te pose la question aussi de qu'est-ce que tu fais si Amadou est ton 6, qui tu mets en défense centrale quand tu vas jouer en 3-3-1-3. Donc tu as beaucoup de questions qui se posent d'une semaine à l'autre, alors que Lille avait fait une performance vraiment, vraiment encourageante contre Nantes, qui était dans la lignée de sa prépa. Et on a peut-être quand même, malgré tout ce qu'on avait dit, sous-estimé l'importance de Mendes et peut-être aussi surestimé un peu Lille sur un match. Cela dit, ils avaient été très bons contre Nantes qui était en 4-4-2 et un bloc médian, et ça avait déjà été le cas pendant la prépa où ils avaient joué contre Rennes comme ça et ça avait été très performant. Là, contre une équipe qui était avec un seul attaquant devant, ils ont eu un peu plus de mal, donc une piste à creuser pour les entraîneurs. La semaine dernière, j'avais pensé qu'il fallait toujours jouer à deux pour empêcher Mendes et Maia d'être sur le terrain. Là, je me dis qu'il faut toujours jouer à 1 pour mettre Maia sur le terrain parce qu'il va perdre des ballons, il va pas les récupérer. Donc, c'est un facteur X, Maia, et je suis pressé de voir s'il va réussir à se relever des quelques performances qu'il vient de faire.
Voilà pour la Ligue 1. On va passer au championnat étranger et plutôt avant à la Supercoupe d'Espagne qui a eu lieu dimanche soir à 22h et où j'étais. Découverte du Nou Camp. Alors je vais d'abord vous faire un topo rapide sur l'ambiance et puis ensuite on passera au match avec Raphaël qui a vu la rencontre aussi, en tout cas une bonne partie je crois. D'abord sur l'ambiance, bah c'était très spécial quand même. Match du mois d'août, match rempli de touristes, j'en faisais partie, mais vraiment de touristes. C'est-à-dire que le match, ils en avaient rien à foutre. Ça prenait des selfies un peu partout, et surtout, en fait, pendant le match, c'était sans doute ça le plus gênant, alors que t'assistes à un Barça Real qui, au final, était quand même de grande qualité, j'ai trouvé. En tout cas, vu du stade, je sais pas si ça transparaissait à la télé, mais vu du stade, ça allait vraiment crescendo au fil du match. Il y avait vraiment pas mal de qualité déjà sur le terrain, mais assez peu de rythme dans la première mi-temps. Et puis c'est monté, bien aidé aussi par l'entrée de Ronaldo. Mais bref, malgré tout ce qui pouvait se passer sur le terrain, ça se levait en tribune, ça allait chercher à bouffer, ça allait chercher à boire, ça se rasseyait, ça reprenait un selfie au milieu des escaliers en attendant avant de se rasseoir. Enfin bref, c'était pas une ambiance de supporters, et à côté de ça, il y avait aussi tous les clichés, c'est-à-dire que dès que Messi touchait la balle, on entendait les Messi, Messi. Et dès que Ronaldo apparaissait sur l'écran, ou bien entrait sur la pelouse, ou bien s'échauffait, il était sifflé. Et je pense que aussi ces sifflets sur Ronaldo ont bien aidé pour le surexciter et pour qu'il fasse l'entrée qu'il a faite. Donc voilà, ça c'était un petit peu un topo sur ce qui se passe autour, ce qui s'est passé autour du terrain. On passe maintenant à ce qu'il y a sur le terrain. Et donc, Raphaël, si vous avez des questions.
Moi, j'ai switché sur la Supercoupe après avec Guingamp PSG, une fois que c'était à 3-0. Donc, j'ai vu une grosse partie de la deuxième mi-temps et j'ai vu surtout le moment où les contres du Real ont commencé à assassiner le Barça. Et c'est là que je me suis dit que pourtant, Valverde, qui est très porté sur le pressing à la perte et sur le fait de récupérer le ballon rapidement le plus haut possible. Là, j'ai trouvé que le Barça avait beaucoup de 2 contre 2 ou de 3 contre 3 à défendre derrière, parfois même de 2 contre 3, notamment avec les projections d'Asensio, de Ronaldo. Enfin bref, quand le banc du Real entre en jeu, c'est une catastrophe pour l'adversaire. Est-ce que ce Barça te séduit sur sa capacité à défendre mieux que ne l'a fait le Barça de Luis Enrique lors de sa dernière saison?
Le truc, c'est que quand tu regardes sur l'ensemble du match, ils n'ont pas été ridicules. Après, les deux buts du Real, les deux derniers, c'est deux actions exceptionnelles. Mais en effet, ouais, c'est des situations de 2 contre 2, 3 contre 3. Après, moi, j'ai trouvé le Barça très en dessous dans l'utilisation de la largeur et du terrain. Ils se sont vraiment recroquevillés sur l'axe et c'était encore plus criant en fin de match. Parce qu'après, sur les côtés, la première mi-temps, c'est catastrophique, quoi. Deulofeu à gauche et Alex Vidal à droite. C'est ça qui est impressionnant, en fait, sur un match comme ça, où donc j'ai vu le match, j'étais avec deux potes qui suivent aussi pas mal le foot, dont un qui bosse dans ce milieu-là d'ailleurs. Et ce qui ressortait, en fait, on s'est dit plusieurs trucs, mais notamment un, c'est que dans un match pareil, avec un tel niveau technique, quand t'as un mec qui n'est pas à ce niveau-là, ça se voit, mais en deux touches de balle, tu vois que le gars est en dessous.
C'est ce qu'on disait lors des derniers tours de la Ligue des Champions la saison passée, c'est il y a le haut niveau et puis il y a le très très haut niveau, quoi. Ouais. Et là encore, on sous-estime les écarts. C'est peut-être là que l'écart est le plus grand. C'est pas entre un joueur de Ligue 1 et un joueur de Ligue 2, c'est entre un joueur de Ligue des Champions et un joueur de Ligue Europa, finalement.
Ouais, c'est sans doute ça. Et c'est vrai que Deulofeu, bon, il a pas eu de bol, parce que moi j'ai vu les deux derniers matchs de Deulofeu que j'ai vu, c'est peut-être les deux seuls au final que j'ai dû voir de lui en entier. Et c'est la finale du championnat d'Europe espoir, et c'est ce match de Supercoupe. Donc autant dire que là, il part pas avec une bonne réputation à mes yeux. Mais c'est vrai que c'était catastrophique. Il y a pas d'autre mot. Et Alex Vidal à droite, c'est pareil, quoi. Et en fait, quand t'affrontes un Real qui sait très bien défendre bas et qui sait très bien verrouiller l'axe, surtout en plus avec leur carré, avec Casemiro, Isco, Kovacic qui a été très bon aussi, et Isco, j'ai dit deux fois Isco, et Kroos, pardon, j'ai oublié Toni Kroos, t'as un axe, enfin t'as pas accès à l'axe, donc faut être en capacité de créer sur les côtés. Et en l'occurrence, quand t'as ces deux joueurs-là sur les côtés, tu peux rien amener. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'étais assez surpris de l'absence de Semedo au coup d'envoi. En plus, j'aurais aimé le voir, puisqu'après avoir bouffé quand même pas mal d'années, enfin pas mal de mois, sans véritable latéral droit au Barça, j'aurais été intéressé de voir ce qu'il aurait pu apporter sur ce match-là. On le verra sans doute mercredi pour le match retour. Mais lui, j'étais très surpris. Bon, après, à gauche, pour l'instant, ils n'ont rien d'autre à mettre. Donc, on a vu Deulofeu, mais voilà. Je pense que tu aurais pu mettre un bon joueur de Ligue 1 en face, il aurait fait le même match, quoi. Il aurait peut-être fait, même fait un peu mieux. C'est ce que je me disais. Tu mets Camano ailier gauche sur ce match, il fait pas moins bien que Deulofeu.
Non, mais Deulofeu a fait un. Toi, t'as vu la finale du championnat d'Europe, mais il a fait. Tous ses matchs étaient catastrophiques dans ce championnat. C'est, je pense que c'est son niveau actuel, tout simplement. Et qu'il est juste pas assez bon pour le Barça. Et ils l'ont racheté parce que c'était pas cher et qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions. Mais ça montre bien les problèmes de recrutement du Barça qui. Là, je lisais encore un truc incroyable et on va en parler. Ben, on va passer à Paulinho. Mais ouais. Les médias brésiliens annoncent que le Barça a contacté la fédération brésilienne pour en savoir plus sur Paulinho et pour connaître son style de jeu. Donc, ça. Enfin, si tu ne connais pas le style de jeu de Paulinho alors que tu es un des clubs les plus fortunés du monde et que tu es obligé de contacter la fédération brésilienne pour savoir quel est son style de jeu, qui a répondu que c'était pas comme Xavi et Iniesta et que c'était plus vertical. Il y a beaucoup de gens au club qui doivent sauter.
Ouais.
Et même si Paulinho est un recrutement qui s'avère bon et qui va être efficace et ça se trouve ça va marcher, il va apporter beaucoup, la méthode derrière les résultats qu'il va obtenir n'est pas bonne.
Bah, de toute façon, Christophe, Paulinho, on sait, enfin, on comprend assez facilement que c'est un choix. Enfin, on va d'abord considérer que c'est un choix sportif et qu'ils veulent changer quelque chose à leur milieu de terrain. Que la réflexion, c'est peut-être qu'on trouvera pas un Xavi ou un Iniesta bis. Donc autant essayer de changer la manière de jouer. Je me mets à leur place. Hein. Je dis pas que c'est le choix que j'aurais fait, surtout quand t'as un joueur comme Seri qui a priori aurait coûté le même montant et voilà, et qui avait été en plus adoubé par Xavi la veille, hein, au final, la veille de l'officialisation de Paulinho. Mais voilà, en imaginant que tu veuilles changer et recruter un joueur de ce profil sur le marché là cette année, il y avait beaucoup mieux à faire que Paulinho en plus, quoi.
Oui, bah déjà Paulinho joue en Chine, donc forcément ça enfin t'es obligé de mesurer ses performances à l'aune de l'opposition qu'il rencontre. Et au bout d'un moment, alors effectivement, il arrive globalement à se mettre au niveau en sélection brésilienne, de ce que j'entreaperçois, de ce que je lis, et tout simplement le fait qu'il soit à chaque fois rappelé, qu'il ait du temps de jeu dans une équipe qui tourne vraiment bien, ça confirme que c'est pas un baltringue non plus. Mais il joue en Chine, il a 29 ans, quand il était son seul grand club, c'était Tottenham, il était vraiment pas bon. Il n'était pas meilleur qu'Etienne Capoue. Or, Etienne Capoue ne va pas aller jouer à Barcelone. Donc déjà le fait d'aller chercher aussi cher un joueur qu'on peut quasiment considérer comme vieux à l'échelle footballistique, en tout cas vraiment sur, à mon avis, sur la fin de son pic de carrière, alors qu'il est en train de faire son pic de carrière dans un championnat de gens qui sont surtout là pour s'en mettre plein les poches, c'est déjà ça, c'est un petit peu bizarre. Après, ça pose les questions quand on voit les vidéos que Romain Molina notamment a fait sur les différentes coulisses des transferts depuis quelques semaines, et que apparemment il était représenté par la société de Jouraption, qui est un partenaire de Xavi. Forcément, quand on commence à mettre le nez là-dedans, on se pose des questions. J'ai vu qu'il y avait aussi des histoires de Bertomeu qui pourrait renforcer sa position via des choses et d'autres.
Enfin, oui, c'est totalement limite, ça. Ouais. Du conflit d'intérêts. J'ai
l'impression que c'est plus politique que sportif. Déjà, en fait, vu que ça n'a quasiment aucun sens, t'es forcément obligé d'aller voir dans d'autres directions, parce que tu te dis, ça peut pas être un choix sportif, sinon il y a mille autres choix que tu fais avant. Quoi.
Que ce soit vrai ou pas, qu'un transfert du Barça t'interroge tellement que tu vas chercher des explications pas du tout sportives, il y a un vrai problème. Quand tu vois le recrutement du Real depuis 4-5 ans maintenant, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est évident, pourquoi ne pas le prendre. Quand tu vois le recrutement du Barça, il y a eu Douglas aussi, où il y avait eu beaucoup d'histoires sur pourquoi ils avaient acheté ce mec, il appartenait à un tel mec, c'était un pote de machin. Il y avait eu des enquêtes là-dessus et ça n'avait pas trop creusé, parce que en général, les médias catalans n'aiment pas trop se mettre mal avec le Barça, parce qu'après, tu n'as plus d'accès. Mais c'est pas le premier transfert depuis quelques années au Barça qui est assez louche quand même.
Ah non, ouais, donc, ça c'est sûr.
Paulinho, au mieux, qu'est-ce que t'en fais? T'en fais une doublure de Rakitic ou un Rakitic bis? C'est pas lui qui va mettre le pied sur le ballon. C'est quelqu'un qui va.
Ouais, c'est ça.
Ça sera un sous Yaya Touré qui va faire des efforts, qui va faire des allers-retours, comme on dit, dans la verticalité, qui va aller au pressing, qui va courir non-stop, qui va porter le ballon.
Ça nous parlait
Ramirez en moins bon, là, le Ramirez de Chelsea, il y a quelques
années. Ouais,
ça parlait de Seydou Keïta aussi, ça le comparait à Keïta un peu.
Ah, non, alors Keïta, je le trouve beaucoup
plus complet.
ouais, complet, à la fois intelligent et bon dans la distribution du jeu. Il faut se rappeler que Keita, quand même, à la Roma, il avait fait des saisons en tant que 6 devant la défense, qui distribue le jeu, qui oriente, ouais. Et tout. C'était avec une vraie patte gauche, quoi. Paulinho, c'est plus un joueur, enfin, bah, comme disait la fédération brésilienne au Barça, beaucoup plus vertical et qui va se projeter et qui est entre Matuidi et Ramirez, quoi.
Après, par rapport au problème vu, moi que j'ai pu voir depuis les tribunes dimanche, là où l'équipe aussi souffrait, c'est un gros gros manque de présence dans la surface de réparation.
Ouais,
ça, il peut beaucoup aider pour finir en deuxième rideau et arriver lancé pour mettre un coup de tête. Là, il peut être utile, mais bon. Après, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si tes côtés produisent rien, au final, ça va servir à rien non plus. Donc,
le truc, c'est que tu vois, quand tu vois la carrière de Messi, ses qualités et le fait qu'il va forcément ralentir, qu'il a commencé un peu à ralentir par rapport à sa période 2010-2012, on va dire, pourquoi ne pas revenir au Barça des joueurs qui de complément autour de lui. C'est-à-dire que quand tu avais Villa et Pedro, ouais, c'était pas les meilleurs attaquants dispo sur le marché à l'époque, mais c'était quand même des très bons attaquants. Mais surtout, c'était des joueurs de déplacement, de profondeur, d'effort, qui faisaient des appels. Et Messi, en fait, il se servait de cela pour délivrer beaucoup de passes décisives. Enfin, il a fait des saisons à 25-30 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et aujourd'hui, tu n'as plus ces joueurs-là qui prennent l'espace aussi intelligemment. Donc tu avais Neymar qui pouvait remplacer Messi en termes d'influence et d'action décisive. Maintenant que tu l'as plus, est-ce que tu vas chercher un remplaçant qui colle vraiment au profil de Neymar, donc ce serait Dembélé, même s'il est encore jeune, ou est-ce que tu vas plutôt chercher des joueurs qui vont fructifier tout ce que sait faire Messi? Quel est ton projet? Et ça, je pense que c'est une question que même au Barça on se pose, c'est quel est notre projet, quoi, s'il y en a un.
Ouais, justement, Christophe, il y a une question là de Guez qui nous demande le Barça sans un ailier gauche de qualité, doit-il changer de formation et sortir
ou d'animation
de son...
quoi,
ou d'animation, ouais, évidemment.
Ouais. Bon, en tout cas, Dello Feu, c'est non. Là, ça a toujours été non. La sentence est irrévocable. C'est le El Ghazi de Barcelone, à qui on peut pas enlever une volonté de bien faire et l'activité, mais qui va trop souvent faire les mauvais choix, notamment individuels, et qui, enfin, en fait, il a pas de radar, il a pas le sonar autour, il a un petit peu trop ballon, dribble, frappe, ou alors passe juste au mec juste à côté, mais il va pas voir le terrain dans sa globalité, et c'est un petit peu un problème quand tu sais que ce qui a fait la grandeur du Barça, c'est justement d'avoir des joueurs qui étaient capables de scanner le terrain, d'analyser, de vraiment à chaque fois trouver la bonne solution de passe. Donc, à la limite, si tout le monde était vraiment au top sur ces autres aspects-là, Deulo Feu pourrait, comme Christian Tello à l'époque, Isaac Cuenca, qui étaient des joueurs vraiment très très médiocres, ou même Refren qui a un petit peu joué, qui n'ont pas vraiment fait carrière, ou alors vraiment au second plan, bah, malgré tout, ils pouvaient s'en sortir, parce que tous les joueurs, les autres joueurs étaient dans le côté on passe, on voit, on fait vraiment les bons choix, et eux, leur côté dribbleur un petit peu plus instinctif, pouvaient s'entendre pour apporter un petit peu de variation. Là, la circulation de balles, etc., c'est beaucoup moins ça. Tes attaquants sont, enfin, par exemple, Suarez est plus finisseur que n'était un Villa à l'époque, à cette époque Barcelone, moi, contrairement à son époque Valence. Enfin bref, donc déjà, Deulo Feu, c'est non. Après, moi, je pense que la logique, alors après, est-ce que Barcelone va faire des choses logiques, je sais pas. La logique, ça serait de prendre Dembélé, et là, tu règles une partie des questions. Pas tout, parce que Dembélé, par certains côtés, rappelle un petit peu Deulo Feu, même s'il le fait beaucoup mieux et que lui, ses dribbles passent. Mais effectivement, ça reste un joueur qui va parfois privilégier un petit peu la solution individuelle, même s'il fait beaucoup de passes décisives. Mais c'est dribble, accélération, centre en retrait. Mais ça peut bien s'intégrer dans le projet de jeu à partir du moment où il passe ses dribbles. Maintenant, si tu fais pas Dembélé, que tu fais aucun joueur de côté, oui, là tu peux repenser ton animation. Mais comment est-ce qu'il y a d'autres animations qui pourraient, tu vois, si tu fais un 4-4 de losange, en quoi ça serait pertinent si t'as pas de bons latéraux, par exemple. Enfin, dans tous les cas, repenser l'animation, repenser le système, je pense que ça te créerait d'autres problèmes. Et là, je vois pas, avec l'effectif actuel, si tu fais aucun changement, un dispositif que tu pourrais faire où tu te dis « Ah oui, effectivement, si tu fais ci, ça va forcément marcher. » Parce que tu as certaines lacunes qui sont un petit peu inhérentes à l'effectif.
Surtout que là, là tu as Messi, Suarez comme attaquant titulaire et qui sont dignes du niveau du Barça. Après, tu n'as plus rien. Et si Messi se blesse comme il s'était blessé il y a quelques saisons, tu n'as pas un joueur comme Neymar qui peut remplacer son apport. Et ça, c'est vraiment la question que Barça doit se poser. C'est si on n'arrive pas à faire Dembélé ou Coutinho, et il y en a un où on ne sait pas trop comment ça va, c'est Dembélé, et l'autre où on sait qui veut faire quoi, le club ne veut pas vendre, Coutinho veut partir, bon, le club est dans son pouvoir et peut très bien garder Coutinho, qu'est-ce que tu fais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas faire une saison avec juste Messi et Suarez devant, comme joueur de qualité, c'est pas possible, et Denis Suarez, De Leo Feu ont montré derrière qu'ils n'étaient pas capables d'assumer la tâche depuis quelques saisons d'ailleurs.
Après, Denis, c'est un peu mieux que Deloufeu, quand même, sur le match en question.
Oui, d'accord. Non, mais j'aime pas... C'est un bon joueur, mais t'as parlé de l'écart entre les...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On a parlé entre le très haut niveau et le haut niveau. Et voilà, je pense que Denis Suarez, aujourd'hui, il faudrait 3 ou 4 ans de Barça A pour être au niveau d'un titulaire Barça A, si c'était le 8e ou 9e meilleur joueur du Barça A. C'est un peu le premier NBA, c'est quoi? Est-ce que ça peut être ton deuxième meilleur joueur ou est-ce que c'est ton quatrième meilleur joueur, tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au Barça qui sont trop hauts dans la hiérarchie aujourd'hui.
Florent, je reviens deux secondes sur le match. Là, je regardais les expected goals où le Barça est à 2,11 et Madrid à 1,1, donc ce qui laisserait supposer, bon après t'as le penalty qui fausse un peu les stats, sinon c'est 1,35 et 1,1, mais ça laisserait penser que Barcelone, alors on va pas parler de mérite ou autre, mais en tout cas a eu les meilleures situations, les meilleures occasions, aurait pu ne pas perdre ce match, voire aurait dû le gagner. Est-ce que du coup c'est les chiffres qui mentent un petit peu, ou alors est-ce que c'est nous qui sommes sévères quand là depuis 10 minutes on critique le Barça, alors que si tu prends ces chiffres là sans contexte, tu te dis qu'ils ont été au-dessus du Real?
Ouais, non, je les ai vus aussi les expected goals après le match, et c'est vrai qu'il y a une action notamment en fin de partie où Busquets rate une énorme occasion seul au 6 mètres. Ouais. Voilà, une occasion d'ailleurs qu'aurait sans doute mis Paulinho ouais, s'il avait signé là. Mais non, après il y a peut-être pas autant d'écart entre les deux sur ces 90 minutes. Après, tu vois que d'un côté, tu as une équipe comme le Real. On nous posait une question là sur Twitter sur la suite du Real. Bah, de toute façon, ils sont dans la continuité de la saison dernière hein, avec un joueur comme Isco qui est toujours aussi fort et qui est un régal avoir joué en vrai. Idem pour Kovacic qui a fait un très très bon match alors que Modric était suspendu. Sur ce match-là, c'est vrai que, en fait, quand tu prends le match dans son ensemble, c'est ce que je disais au tout début, c'est parti crescendo, c'est-à-dire que la première mi-temps est de très bon niveau technique, très haut niveau technique, sauf pour les joueurs que j'avais cités tout à l'heure, on va pas en rajouter, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'intensité, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de grosses occasions en première. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, tu as le CS7 Piqué qui débloque tout. Piqué qui a d'ailleurs passé un match assez horrible, puisqu'il est sur tous les buts. Et il prend très cher aussi face à Benzema début de deuxième mi-temps. Et donc ce CS7 Piqué débloque un peu tout. Et ensuite, d'un côté, t'as un Barça qui pousse pour revenir, et puis un Real qui décide d'attendre et de contrer. Et puis ça tourne côté Real, mais c'est vrai que le Barça a eu des situations. Il y a eu, je parlais de l'occasion de Busquets tout à l'heure, il y a eu aussi des balles, tu sais, ou des centres qui passent fort devant le but, et puis il y a personne qui se jette, ou Suarez qui est un peu court, ou voilà. Donc il y a eu des occasions côté Barça, mais on sentait pas, tu vois, que c'était leur jeu qui les amenait à ces situations-là. C'était pas forcément quelque chose de construit. On sentait beaucoup moins une ligne directrice côté Barça que côté Real, quoi.
Voilà. Mais malgré toutes leurs limites, ils sont toujours capables de réaliser des grandes performances. Voilà. Et je pense que c'est pas leur jeu qu'on a critiqué depuis tout à l'heure. En dehors de moi, je trouve que leur pressing à la perte ne devait pas marcher parce qu'il y avait trop de 3 contre 3 derrière. Mais c'est plutôt le personnel que tu as à disposition qui pose problème. Dans le jeu, je pense qu'il y aura toujours des matchs où on dira ouais, le Barça, parce qu'il y a Piqué, parce qu'il y a Busquets, parce qu'il y a Iniesta, parce qu'il y a Messi.
Ah voilà,
c'est ces mecs-là, c'est trop faible.
Ça aussi, c'est un autre problème, parce que là, t'as dit parce qu'il y a Piqué, parce qu'il y a Busquets, parce qu'il y a Iniesta, parce qu'il y a Messi.
Sur ce match, tu vas me dire que les mecs étaient pas.
Il y avait pas Piqué, il y avait pas Busquets. non, mais c'est vrai, et c'est aussi une autre question qu'on se posait avec mes potes après le match. C'est que quand t'es le Barça, aujourd'hui, des joueurs comme Piqué ou Busquets sont toujours indéboulonnables dans le 11, alors que sur leur performance de la dernière saison, ils pourraient être remis en cause s'il y avait vraiment une concurrence, logique.
Ouais, mais Ils ont réalisé tellement de choses, est-ce que tu peux les remettre en cause sur une saison?
Bah, c'est...
Sur n'importe quel autre joueur, on dirait oui, il a fait une mauvaise saison, mais sur des joueurs comme ça, qui ont fait 10 ans au plus haut niveau, ou 7 ans au plus haut niveau, est-ce qu'une saison, ça suffit à les remettre en cause, tu vois?
Bah, c'est...
Je pense que toi, c'est un peu comme le cas de Juninho, un moment à l'OL qui commence à décliner, et tu disais, ouais, mais c'est quand même Juninho, quoi, tu peux pas...
Oui,
le...
bah, c'est ça, ou le cas de France 98, qu'on s'est traîné pendant longtemps avec certains joueurs qui étaient toujours là,
ouais.
Alors qu'ils
étaient cramés. Alors, il y a la limite entre respecter le niveau du mec et son statut, et savoir que qu'il peut très bien revenir au plus haut niveau, et être conscient qu'il a passé son pic. Moi, je pense que ces deux mecs-là, tu peux encore leur faire confiance. C'est plus autour d'eux. Je pense que si autour d'eux, t'arrives à trouver les joueurs, eux-mêmes se remettront au plus haut niveau.
Le pire, c'est que le Barça n'a pas fait confiance à Alves, qui a aussi eu 7-8 mois très très compliqués à l'époque, qui a fini par réémerger et retrouver son niveau. Ils l'ont quand même dégagé. Et on voit que 3-4 ans après, il est toujours, 3 ans après, il est toujours très bon. Donc c'est vrai que peut-être que le seul qui aura réussi à retrouver son niveau, contrairement à Piqué, Busquets, qui ont l'air un petit peu vraiment de rester dans le trou. Alors, pas complètement dans le trou, mais disons à plus retrouver.
Disons qu'en fait, il y a
être
plus
capable de faire 2-3 très bonnes performances par mois. Bah peut-être que finalement, ils auront fait confiance aux mauvaises personnes.
Disons qu'en fait, ce qui frappe avec eux, en tout cas, voilà, sur ce match de reprise et sur ce qu'on avait pu voir dans leurs échecs de la saison dernière, notamment le match face à la Juve, là, le quart de finale aller où ils coulent tous.
Tu peux mettre le match face au PSG aussi.
Oui, le match aller face au PSG, en effet. C'est que ces joueurs-là, en fait. Ils vont toujours, le plus parlant c'est quand même pour Busquets, c'est qu'il va toujours pouvoir te faire un ou deux éclairs par match, voire un peu plus, mais la constance sur 90 minutes qu'il avait dans sa meilleure période, celle-là elle n'est plus là quoi. Et c'est là aussi qu'il y a sans doute des questions à se poser. Le truc c'est que ces joueurs-là, comme tu le disais, ils ne vont pas forcément être remis en cause pour plusieurs raisons. Parce qu'en effet on remet pas en cause pour ce qu'ils ont fait avant, mais aussi par rapport à Alves, parce que c'est des joueurs du cru et peut-être aussi les derniers représentants de la période, la très
pour
bonne
moi,
période du Barça quoi.
Pour moi toutes ces raisons là sont valables, je suis le directeur du Barça ou le président, je me sépare pas de Piqué et Busquets pour rien au monde, j'ai même pas en concurrence, ils ont leur place, il y a pas de souci. J'interroge d'abord ce qu'on fait sur les autres postes.
Mais le problème c'est que sur ce match là ces joueurs là bon
tu vois là on condamne le Barça, et puis quand Messi décidera de gagner tous les matchs pendant 6 mois, ils les gagneront, donc c'est aussi le cas du Barça, c'est que tu sais très bien qu'avec le talent qu'ils ont, et ils ont le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire, moi selon moi oui, mais bon les gens seront peut-être pas d'accord, mais c'est une équipe qui est complètement imprévisible. Mais le souci c'est que à l'inverse, par exemple quand t'es en concurrence avec le Real, tu sais que le Real va être prévisible parce qu'ils vont gagner, parce qu'ils ont tout pour gagner, alors que le Barça maintenant n'a plus tout pour gagner, et tu te poses plein de questions par rapport à il y a quelques saisons, et c'est ça qui est le plus triste pour cette équipe qui était partie pour régner sur le foot, et qui finalement et le transfert de Neymar je pense surtout a mis en lumière tous les problèmes du club, alors qu'avec ce 3 là tu pouvais survivre malgré toutes les erreurs que tu faisais quand t'étais Bartomeu.
Ah oui, ça c'est certain. Bon, je pense qu'on a fait le tour là hein, sur ouais. Barça, Real aussi.
De toute façon, on en reparlera assez rapidement du Barça, je pense.
Ouais, ben s'ils continuent de bouger sur le mercato, on fera peut-être un bilan à la fin de l'été, ouais.
Ah, juste sur le Real un mot parce qu'on n'a pas trop parlé.
Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que pendant que Bartomeu réclame sa tête, tout le peuple barcelonais réclame sa tête. Si Florentino Pérez il part en vacances pendant un an, dans un an le Real est toujours la meilleure équipe du monde. Ça c'est génial. Quoi. C'est qu'il a tout fait et maintenant il est tranquille.
Christophe, là-dessus, un mot à rajouter ou pas?
Bon, c'est pas la remarque la plus controversée de l'histoire de foot.
Voilà. On va enchaîner, on va rapidement survoler les autres championnats, parce qu'on a quand même pas mal traîné sur nos deux premières parties. Sur le reste de la Liga, Christophe, avant la reprise, qui aura lieu le week-end prochain, est-ce qu'il y a des équipes que tu attends et que t'aimerais suivre, hein. Voilà, on reprend un petit peu la rubrique qu'on avait fait en début de saison dernière.
Alors d'abord il y a le Celta qui a changé d'entraîneur en prenant Unzué. Alors est-ce que ça sera dans la veine de ce que faisait Berizzo, qui a quand même amené le club très loin en Coupe d'Europe l'an dernier, mais qui en championnat, alors forcément il pensait un peu à la Coupe d'Europe, mais ça finissait par stagner un peu. On avait l'impression que ça jouait parfois un petit peu trop la possession et qu'il n'y avait pas trop de finition. Là, ce qu'on a vu en pré-saison, alors c'était simplement des images de une ou deux actions. On n'a pas vu, enfin, en tout cas, j'ai pas vu les matchs en entier. Mais tu as vraiment des sorties de balles rapides où tout joue en une touche de balle. Et c'est vraiment, alors c'est pas du jeu de position, mais c'est du jeu en une touche très rapide. Vraiment très sympa à voir jouer. Ça n'a quasiment pas recruté. Ça s'est même sans doute un petit peu affaibli avec Bongonda qui est parti. Mais le changement d'entraîneur peut permettre de jouer de manière un petit peu différente, peut-être en gardant les bases du jeu de possession qui sont maintenant acquises, mais en mettant un petit peu plus de vitesse. Donc j'attends de voir le Celta, et par ricochet, j'attends de voir Séville, qui du coup a pris Berizzo du Celta, qui a pris aussi beaucoup de joueurs. C'est l'autre interrogation, autant le Celta, surtout sur le changement de coach, que je m'interroge, voir s'ils vont réussir à prendre ce qui a été fait et à un petit peu donner un petit twist pour le faire évoluer. Autant Séville, t'as beaucoup de nouveaux joueurs, au-delà du changement de coach, qui a priori ne devrait pas révolutionner ce que faisait Sampaoli. Berizzo est globalement sur la même idée, peut-être un petit moment de prise de risque, plus de possession, bon, pas défensive, mais plus calme, on va dire, plus dans la construction. Mais avec des joueurs comme Muriel qui arrive, le retour de Banega à la construction, Guido Pizarro, j'attends de voir ce que ça peut faire. Il y a Nolito qui avait plutôt pas mal commencé la saison avec City l'an dernier avant de complètement disparaître, qui peut être un joueur qui apporte la touche de dribble au milieu d'une équipe plutôt de possession. Corchia, alors peut-être que ça sera la révélation, comme Tremolinas qui avait passé un cap en allant en Espagne, alors que j'avais l'impression qu'il stagnait un petit peu depuis quelques saisons et que je pensais qu'il avait atteint son plafond à l'époque. Donc à voir. Après, t'as beaucoup d'autres équipes que je vais pas mentionner, mais qui ont fait un recrutement, dans lesquelles je vais pas rentrer en détail, mais qui ont fait un recrutement qui peut être intéressant. À voir. Ces deux équipes-là sont celles qui m'attirent le plus. Après, je vais attendre un petit peu. Par exemple, la Real Sociedad, l'an dernier, je ne l'avais pas du tout sur les radars. Et finalement, c'était une équipe qui était super intéressante à voir jouer. Là, peut-être que le Betis, qui a fait un recrutement assez intéressant, assez complet, avec des joueurs comme Amat, Boudbouz, Guardado. Voilà, ça peut être pas mal, mais je vais attendre de voir, parce qu'il y a des fois des équipes sur lesquelles on n'a pas du tout d'idée avant que la saison commence, et puis dont on se rend compte que le changement de coach ou alors des promus fait qu'elles sont vraiment intéressantes à voir jouer.
Raphaël, est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux citer en Espagne ou...
En effet, celle que Christophe a citée, je partage son avis. Il y a aussi le Valence de Marcelino qui était il y a quelques saisons à Villarreal, dans le club rival, qui avait développer un jeu vachement intéressant avec beaucoup d'actions à une touche de balle, beaucoup de vitesse, un 4-4-2 qui était très rigide en zone, plutôt efficace, qui avait fait des bons parcours en Coupe d'Europe, donc je suis pressé de voir ça. Et puis, comme l'a dit Christophe, le Betis de Quique Setién. Alors la dernière fois qu'un coach comme ça, aussi radical dans ses idées, a changé d'équipe en Liga, c'était Paco Remes quand il allait à Grenade, ça a été une catastrophe, donc je suis pressé de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en Liga, il y a pas mal d'équipes comme ça qui se révèlent en cours de saison, donc on ne sait pas que ça va être bien, et puis 2-3 semaines après le début de la saison, on se rend compte que c'est génial, donc c'est un championnat que je vais suivre particulièrement cette année, j'ai pas trop eu le temps les dernières en plus.
Bon, et ben, vous avez de toute façon donné les équipes que j'aurais annoncées, puisque moi c'était surtout le Séville de Berizzo, donc ben, on va enchaîner directement avec la Première Ligue, avec quelques questions avant de donner nos équipes à suivre. D'abord, quel est notre favori? Une question de Yanis sur Twitter. Quel est notre favori pour la Première Ligue cette saison? Je réponds d'abord. Pour moi, ça va se jouer entre City ou United. Voilà.
C'est très controversé aussi, ça, comme avis.
Ouais, mais en fait...
Attends, mais il faut choisir entre les deux, sinon c'est trop facile.
Ouais, après, je penche plus pour City, parce que déjà, quand tu regardes les chiffres de l'année dernière au niveau des... Les expected goals, je crois qu'ils finissent avec une différence où ils finissent à plus 20 par rapport à au premier poursuivant. Donc c'est une équipe qui a vraiment sous-performé l'année dernière. Ils avaient l'air quand même assez énervés pendant la préparation. Ils ont sorti 2-3 prestations de très très haut niveau. Le 3-5-2, je trouve ça... J'ai pas encore vu, je suis en train de travailler sur leur reprise. Et je les ai pas vus, j'ai pas vu les matchs en entier, mais j'en ai récupéré quelques-uns.
Et ça pas contre Brighton, hein, parce que c'était chiant.
Ah ben, je suis concentré d'abord sur les deux derniers matchs de préparation là, qui sont faits, Tottenham et West Ham, où c'était un peu mieux pour eux. Mais 3-5-2, je trouve ça convaincant, dans le sens où ça leur offre beaucoup de densité dans l'axe pour sortir, pour aller presser. Et ils ont chopé des latéraux qui ont un certain volume de jeu pour pouvoir aller presser haut et compléter sur les côtés et couvrir tout le couloir. Donc tout ça fait que City, ça me paraît assez correct. Et en plus, le 3-5-2 peut permettre de jouer devant avec Gabriel Jesus et Agüero. Puisque l'an dernier, il fallait vraiment choisir entre les deux.
C'est ce qu'il a fait en effet contre Brighton lors de la première journée. Avec Christophe, on a vu le match. C'était en effet très fort défensivement. Ça, j'ai été impressionné parce qu'il récupère le ballon très vite et très haut. Et il n'y a quasiment pas eu d'occasion pour Brighton, qui cependant est une équipe complètement catastrophique techniquement. Et je pense que c'est un des promus les plus faibles dans ce domaine depuis quelques saisons. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la difficulté à créer un décalage contre un bloc bas. Là, ils étaient en effet en 3-5-2, comme tu l'as dit, avec Danilo côté gauche et Walker côté droit. Alors, en effet, il y a du monde dans l'axe, mais il n'y a personne qui a de l'espace et du temps pour créer un décalage dans l'axe. Les seules actions où ils ont réussi à trouver un joueur face au but, finalement, c'est en faisant un petit piqué par-dessus la défense. Et pourtant, il y a très peu d'espace dans le dos, mais c'est les seules actions qui ont réussi à faire la différence. Donc, peut-être qu'avec Benjamin Mendy, avec Leroy Sané, avec Kyle Walker en meilleure forme, ils arriveront à créer ces décalages. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper stérile. Je trouvais que la circulation de balle était très très lente, que David Silva et Kevin De Bruyne étaient loin du but parce qu'ils jouent dans un espèce de... Finalement, c'est quasiment un 3-3-4 comment ils jouent, quoi, parce que t'as les trois centraux, t'as Fernandinho devant la défense, et puis t'as De Bruyne et Silva qui sont très bas, comme un peu comme la Kroos et Modric au Real, avec la ligne de 4 Jesus, Agüero, plus les deux latéraux. Et moi, j'ai trouvé que c'était ça manquait beaucoup de dynamisme. Les latéraux recevaient toujours le ballon à l'arrêt, ils partaient jamais dans le dos de la défense. Franchement, pour un premier match contre un bloc bas, et c'est peut-être la différence qu'avec la prépa où ils ont joué des équipes plus ambitieuses et qui allaient de l'avant, je trouvais que c'était pas encourageant et pas réjouissant, parce qu'ils finalement ils finissent par ouvrir le score sur un but en contre-attaque sur une des séquences de possession de Brighton.
C'était un peu ça contre West Ham sur le match amical où ils finissent, je crois qu'ils gagnent 4-0 à la fin. Et j'en suis à la 30-35e minute, je crois, puisque je suis en train de séquencer le match pour faire des vidéos, etc. après dessus. Et c'est un petit peu ce que tu disais, parce que West Ham attendait avec son... C'était un 4-5-1, je crois, à West Ham. Et un bloc assez bas, et surtout beaucoup de densité dans l'axe pour empêcher la pénétration vers toutes les solutions qui étaient offertes par... T'avais Silva, De Bruyne, Gabriel Jesus et Agüero, je crois, sur ce match. Tu avais Sané qui jouait latéral gauche, et Danilo à droite. Et c'est vrai que sur les premières minutes, en fait, je me disais... on m'a survendu City ou quoi, parce que c'est vrai que il y avait un certain emballement après leur dernière perf sur Twitter et les réseaux sociaux en général. Et en fait, comme tu l'as dit, par contre, ils concédaient strictement rien derrière. La défense était très solide.
C'est ça qui est impressionnant.
Et ça c'est quand même positif. Et en fait, au final, en ajoutant tout ça, on a peut-être une équipe qui sera plus armée pour les fameux gros matchs qu'ils ont perdu l'année dernière. Après, pour moi, les problèmes face au bloc bas, etc., je pense que c'est plus lié à l'heure actuelle à un problème de rythme, peut-être d'automatisme, etc., de choses à retrouver et de rythme, d'intensité à retrouver avec la balle pour pouvoir les faire bouger, etc. Et que c'est quelque chose qui risque de venir avec la répétition des matchs. Ça, c'est ma vision optimiste des choses.
Ouais, mais tu vois, là pourtant, j'aime beaucoup le jeu de position, mais là où je le trouve problématique, c'est que quand tu te mets dans cette optique de réaliser beaucoup de passes pour mettre ton bloc en place et pour être prêt finalement à te défendre mieux, t'arrives jamais à trouver un bloc en face qui est pas en place, quoi.
Tu laisses le temps,
tu es prêt à défendre, parce que là Brighton c'était un 6-3-1 ou un 6-2-2 la plupart du temps, ce qui fait que tes latéraux étaient toujours pris, je vais dire lenteur, mais c'est un terme qui n'est pas vraiment précis, mais le temps de préparation nécessaire au jeu de position, je trouve que parfois est contre-productif. Et que finalement, quand on reproche à une équipe de ne faire que du contre, parfois on pourrait reprocher à une équipe de ne faire que du jeu de position, quoi, ou que du jeu de possession. Et c'était un peu le problème de Blanc aussi au PSG, c'est que tu retrouvais que des blocs bas parce que tu ne profitais jamais des quelques moments où tu pouvais dépasser le replacement du bloc adverse. Alors là, en l'occurrence, Brighton n'attaquait jamais à plus de 2, donc tu n'avais pas vraiment l'opportunité. Mais sur d'autres matchs, je trouve que cette volonté de faire 15 passes avant, elle fait oublier des occasions à City, quoi.
Christophe, sur City d'abord, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, je suis assez d'accord avec Raphaël, ce qui est assez peu surprenant, puisqu'on conversait pendant le match et qu'on était tous les deux énervés des mêmes choses. Alors, la défense à 3, Kompany, Stones, Otamendi, fait, surtout avec l'intégration de Kompany, que tu es beaucoup plus solide, paradoxalement, tu peux, même si on se dit 3-5-2 avec des ailiers, enfin des latéraux ailiers très hauts, on se dit il y a plein de joueurs mobilisés offensivement. Oui, mais tu as 3 défenseurs centraux, et là généralement les 3 restaient en position, donc t'avais 7 joueurs offensifs, là où des fois en 4-3-3, si ton 6 joue assez haut et que les deux latéraux montent, bah, en fait t'as un joueur de plus qui est mobilisé en attaque. Donc là, les 3 défenseurs qui restaient quasiment tout le temps en position fait que t'avais une base solide, et que même quand ça contre-attaquait à 2 joueurs, bah, t'étais jamais mis en danger. Après, ouais, le fait que Silva notamment fasse un match très discret, De Bruyne aussi, mais Silva, je sais pas, j'ai trouvé qu'il bougeait pas assez.
Ses cheveux là, qui restait, cheveux.
Bah peut-être, oui, peut-être que le fait de ne plus avoir de cheveux, au-delà de le rendre difficilement reconnaissable, le mec ressemble plus à Pablo Zabaleta qu'à David Silva maintenant, c'est assez pratique. Mais peut-être que c'est aussi son âge, là, je crois qu'il a 31 ans, qu'il va avoir 31 ans, enfin en tout cas, peut-être qu'il va commencer à baisser un petit peu le pied physiquement, mais c'était très très stéréotypé. Et la vraie question, on aura la réponse assez vite, c'est est-ce que Brighton défendait vraiment bien ? Ce qui peut arriver, des fois il y a des équipes moyennes ou faibles, mais dont le bloc est vraiment très très solide.
Burnley l'année dernière, par exemple.
Voilà, je crois. Est-ce que c'était City qui attaquait mal ? Je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de petites, voire même de moyennes équipes qui vont pas se faire chier et qui, contre tous les gros, et notamment contre City, vont vraiment garer le bus derrière et vont se dire c'est mieux vaut faire ça que d'essayer de jouer, parce que quand tu vois ce qu'a fait City en prépa, t'as quasiment aucune chance. Et là, l'une des seules fois où Brighton a essayé de faire 3 passes, bah directement contre-attaque, ça fait but. Donc j'ai peur que City ait quasiment le même problème chaque semaine, et j'ai pas tant peur pour City, parce que voilà, je suis pas supporter de City, et s'ils sont pas foutus de marquer des buts, c'est leur faute. Mais d'un point de vue de fan de foot, autant on se régale quand il y a 2 équipes qui essayent un peu de jouer et que le jeu de possession arrive à trouver des espaces, autant si c'est juste faire des passes et essayer d'avoir un petit espace face à une équipe qui refuse le jeu, ça peut vite devenir très très chiant. Et là, ce match-là était assez soporifique, et toute la qualité technique de débordement, de percussion de certains joueurs de City se noyait finalement dans le fait que ça soit un petit peu du handball, quoi.
Du coup, vous avez d'autres favoris, vous, pour la première ligue cette saison, ou...
C'est en partie pour cette raison que je sens bien, je n'avais pas dit qu'ils allaient gagner, j'ai dit je sens bien Manchester United. J'ai vu leur premier match contre West Ham, il me semble, qui a pris 4-0 encore une fois, donc c'est pas forcément une équipe qui défend bien, Flo, je sais pas, que tu le mentionnes dans ton analyse. Mais j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait réussi à... En 2 recrutements, juste Lukaku et Matic, a passé un cap important d'abord, parce que Lukaku va finir les occasions qui n'étaient pas vraiment dans le registre de Ibrahimovic la saison dernière. Alors forcément, dans la participation au jeu, il apporte beaucoup moins, mais tu as tellement de qualité devant, et un milieu, pour moi, je trouve que même par rapport au milieu de City, c'est pas forcément des meilleurs joueurs, mais c'est un milieu qui est mieux construit, je pense, pour tout type d'affrontement et tout type d'opposition, et notamment aussi en Ligue des Champions. On parle de Première Ligue là, mais je trouve que c'est une équipe qui est très bien construite pour ces joutes là, les joutes européennes et les gros matchs de Première Ligue. T'as un vrai équilibre, t'as au milieu 3 joueurs, là ça a joué à 2 avec Matic et Pogba, mais quand Herrera sera là, ça joue avec 3 joueurs qui sont capables d'un peu tout faire, qui sont capables de percuter, qui sont capables de trouver une passe intéressante, qui sont capables de récupérer le ballon. T'as devant des joueurs qui font des différences individuelles assez facilement, Rashford, Martial. T'as des joueurs qui se déplacent bien, comme Lingard, Mata et Mkhitaryan. Et puis t'as un mec qui finit les occasions devant. Donc je avec en plus la possibilité que Martial et Rashford se jouent dans l'axe de temps en temps. Donc c'est une équipe qui l'année dernière déjà, je ne la trouvais pas aussi mauvaise qu'on pouvait le lire, et j'avais passé des bons moments parfois devant les matchs de Manchester United. Là, j'ai trouvé le début du match hyper ennuyeux, je me suis fait chier, et puis peu à peu, quand ils ont commencé à trouver du rythme et à trouver des espaces sur les côtés, notamment avec des attaques rapides, c'était assez effrayant ce que construisait Mourinho, et ça me rappelait un peu son Chelsea de la deuxième saison, quoi. C'est une équipe qui est capable d'avoir le ballon, mais qui est aussi capable de multiplier des attaques rapides avec des talents hors du commun devant, surtout jeunes, quoi. Des mecs qui ont une vivacité que n'avaient peut-être pas forcément les mecs de Chelsea en dehors de Hazard. Donc ça colle assez bien à ce que veut Mourinho, à sa vision du foot, et je pense que ça peut faire très mal.
Christophe, tu avais l'air d'accord avec ça?
Ouais, ce qui pour moi peut faire la différence, c'est la puissance et la présence physique de Lukaku. on est quand même en première ligue, c'est un championnat physique et un bloc par exemple comme Brighton peut beaucoup plus facilement se scinder si t'as quelqu'un qui arrive à gagner les duels aériens. Et c'est pour ça que t'as des joueurs des bons attaquants qui n'arrivent pas du tout à percer, alors que des profils à la Sig Thorsson voilà. Et je pense que Lukaku, qui a ce côté très très puissant, bon dans les airs, qui prend de la place, mais qui en plus sait jouer au foot, peut être un petit peu comme Diego Costa à Chelsea l'an dernier, bonifier ce qu'il y a autour. Et je me rappelle, c'est pour moi l'une des images marquantes l'an dernier, c'est le Chelsea et Manchester City et le but que met Diego Costa, où il est seul face à deux défenseurs, ouais. Il contrôle, il élimine son défenseur, il va marquer, chose que n'arrive pas à faire Agüero, qui en plus est moins bon à la finition. Agüero, depuis un an et quelques, c'est quand même, ça reste un bon joueur, mais au niveau finition c'est quand même assez compliqué. Et je pense que ce sont ces joueurs là qui arrivent quasiment tout seuls avec un petit jeu de corps. En plus, Lukaku, il a sa petite spéciale où il fait son petit jeu de corps, il part sur le côté, il enchaîne sur sa frappe directement. Je pense que ça peut faire la différence et permettre de gagner des matchs 1-0 les jours où ta possession et tes créateurs seront un petit peu moins bien. Là où City a très peu de match winners comme ça, qui peuvent marquer des buts à partir de rien finalement.
Ouais, en plus, surtout que la saison passée, Manchester United a eu beaucoup de matchs nuls, un partout, 0-0, alors qu'ils avaient une énorme possession de balles et pas mal d'occasions, mais ça finissait pas, quoi.
Ils avaient beaucoup de problèmes de finition, aussi.
Ouais, si la plupart de ces matchs-là, ou au moins deux tiers, tu les transformes en des petites victoires, surtout que défensivement, c'est quand même assez solide. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être ultra intéressant de revoir Mourinho avec un effectif qui peut faire des choses.
Bon, justement, du coup, ça répond à la question de Yann qui nous demandait la Barclays Première Ligue peut-elle enfin avoir de nouveau des équipes performantes en Ligue des Champions? Du coup, la réponse est oui.
United, oui. City, j'attends. Défensivement, oui. Après, j'espère que ça va pas être comme en Première Ligue et que toutes les équipes vont attendre très bas parce que ça va poser problème à City. Mais ces deux-là, évidemment, vont avoir des atouts. Après, la question, c'est est-ce que derrière, Tottenham, malgré sa superbe qualité de jeu, va pouvoir performer en Ligue des Champions? L'an dernier, ça a été assez ridicule quand même.
Christophe, Chelsea, on en pense quoi?
Pas grand-chose. je pense qu'il leur manque un joueur.
Manque Matic, en fait.
Ouais, il leur manque Matic et puis Morata dans le rôle de Diego Costa. Alors pourquoi pas, mais Michy deuxième attaquant, faut vraiment pas que Morata se blesse parce que Michy titulaire, je pense que ça sera pas en première ligue. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner si t'as pas un Hazard, un Pedro qui font une saison incroyable, parce que Michy sera pas capable de se débrouiller tout seul devant comme Morata physiquement. Alors on l'a vu sur ce premier match. Mais oui, Matic, difficilement compréhensible son départ. Enfin, je pense que tu aurais pu le bloquer comme Liverpool bloque pour l'instant Coutinho. Je sais pas, je m'interroge un petit peu. Apparemment, alors c'est peut-être totalement faux, mais j'ai lu à droite à gauche que Conte se serait un petit peu pris le bec déjà avec Morata. Il s'est pris le bec l'an dernier avec Diego Costa. Est-ce que une deuxième saison de Conte, ça ira aussi bien que la première? Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes au niveau de l'exigence qui demande de ses hommes, etc.? Je vois pas là où tout roulait l'année dernière. Je suis pas persuadé que ça roule aussi bien cette saison. Alors peut-être que j'aurai l'air d'un débile dans quelques semaines, mais là je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
L'avantage de Chelsea, c'est qu'ils ont toujours le meilleur joueur du championnat, même s'il est encore blessé, Eden Hazard. C'est de loin le mec qui fait t'as parlé de match winner tout à l'heure, Christophe, c'est le gars qui te fait des différences qui te permettent de passer un cap en première ligue. Il y a peu d'équipes qui ont ce genre-là. Quand tu vois Liverpool, les difficultés qu'ils ont eues contre Watford, pas à marquer, hein, mais à défendre, c'est pour ça aussi que le côté, comme tu l'as dit, Flow City qui sait très bien défendre, en effet, c'était une des grosses qualités du Barça de Pep les premières années, et on a peut-être sous-estimé ça. Et si en effet ça prend 20 buts sur la saison, ça va être difficile de ne pas être champion, quoi.
On enchaîne avec la Serie A, ou alors vous avez d'autres équipes à suivre en première ligue derrière?
En première ligue, est-ce qu'il y a de...
Si on a... Elle va dire un mot sur Liverpool, son club de cœur.
Non, mais oui, c'est à suivre parce qu'on va se marrer, mais moi je vais pleurer. Donc, non, c'est déjà contre Watford, t'as vu tous les problèmes qui étaient là la saison dernière. C'est une équipe catastrophique sur les coups de pied arrêtés et sur les actions consécutives aux coups de pied arrêtés, comme l'a souvent mentionné Klopp. C'est que ça, parfois tu vas réussir à dégager le ballon de la tête et puis ça va revenir en deuxième centre et la ligne sera complètement déformée, mal placée, jouera pas le hors-jeu. Enfin, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Jamie Carragher a dit que pour lui, c'est parce que Liverpool défend en zone, il a dit que pour lui les joueurs n'étaient pas positionnés dans les bonnes zones et que par exemple que Firmino défendait une zone qui était trop dure à défendre pour lui, des choses comme ça. Donc à voir si Klopp va changer ça, mais ça fait un an et demi maintenant que c'est un problème, donc il serait temps. T'as des joueurs aussi qui sont pas forcément au niveau pour jouer un titre de champion ou pour aller loin en Ligue des Champions. Je pense que par exemple Henderson en 6 aujourd'hui, quand tu veux être une des meilleures équipes d'Europe, c'est pas possible. C'est un joueur qui a trop de limites dans la compréhension du jeu, dans la technique, dans l'orientation de son corps. Donc, qu'est-ce que je fais à la récupération du ballon? Est-ce que j'arrive à transformer ça en transition offensive ou est-ce que ça va juste un ballon perdu parce que je dégage immédiatement? Il y a beaucoup de limites et un départ de Coutinho serait à la fois catastrophique sportivement et en termes d'image également. Parce que tu essaies de vendre l'image d'un club qui se relève, qui prend un des meilleurs coachs du monde pour dire voilà, on est revenu au top, on essaie de maintenant garder nos joueurs. Et si tu vends Coutinho 3 ans après avoir vendu Suarez, bah tu montres que finalement c'est le même cycle à chaque fois et que dès que le mec est trop fort, il s'en va. Et je pense que c'est l'histoire de Liverpool depuis quelques années, depuis plein d'années maintenant. Et il serait temps qu'elle s'arrête et je sais pas comment l'arrêter, en dehors de juste dire à un mec non, tu pars pas. Mais quand 150 millions vont arriver de la part du Barça, je suis pas sûr que les Américains vont dire non. Donc je suis plutôt pessimiste en ce moment pour le début de saison de Liverpool.
Ah ben, on a aussi une dernière question, Christophe, sur une question de Mugi38. Je crois que c'est Nadine Zamorano sur Twitter. L'apport de Lacazette dans le 3-4-3 d'Arsenal. Lacazette qui a plutôt bien démarré sa saison avec Arsenal. Personnellement, moi, ça m'avait un peu surpris. Je l'avais vu à gauche et non pas en pointe. C'était sur la Super Coupe, enfin le Community Shield. Où il avait fait je me rappelle plus. Mmh. Ou alors c'était un amical, je sais plus, je m'y perds un petit peu dans les matchs de préparation. Mais bref, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il a dit qu'il avait quand même un petit peu souffert, qu'il avait découvert un petit peu quelques différences entre le championnat français et le championnat anglais au niveau du traitement par les défenseurs, ce qui était assez logique et attendu. Mais il a marqué son petit but sur son premier ballon. Arsenal s'est finalement imposé dans la douleur, mais s'est imposé. Donc on va le suivre aussi quand même.
Oui, finalement, c'est pas un profil si éloigné que ça que de Alexis Sanchez sur le côté. À la fois, je peux finir les occasions, mais je fais aussi participer mes coéquipiers. Là où Giroud est plus finisseur et va rentrer en cours de match pour profiter de défenses fatiguées. Je pense que Lacazette a tout pour s'imposer si ses partenaires, notamment sur les côtés, sont au niveau, parce que Lacazette a cette faculté, au-delà du côté buteur, à bonifier le jeu collectif. Ouais, maintenant, il faut pas que tes ailiers soient toujours sur percussion et qu'un Welbeck joue un peu tout seul. Donc, il faut qu'il ait quelque chose à bonifier, quoi, finalement. Vas-y Raphaël, tu voulais dire quelque chose?
Parce que je sais pas si, quand tu as parlé de la comparaison entre Lacazette et Sanchez, en effet c'est des joueurs qui créent beaucoup d'occasions et qui font participer les autres joueurs, mais Sanchez je trouve est plus dans un profil face au jeu, qui va percuter puis te lancer dans la profondeur ou par-dessus la défense.
Là où Lacazette remise plus.
Ouais, alors que Lacazette c'est plus en remise, alors peut-être que pour l'instant Wenger le met plus dans l'axe et puis après le fait bouger sur un côté ou un peu plus loin du but parce qu'il sent qu'il n'est pas encore assez costaud pour être bon au but en Première Ligue, contrairement à la Ligue 1. Mais j'ai peur que si tu le mets trop face au jeu, tu limites son apport, parce que pour moi c'est pas un mec qui va faire une différence sur 12-14 mètres de course et un dribble, tu vois. Enfin, je l'imagine mal dans ce registre-là aujourd'hui, peut-être en début de carrière oui, mais j'ai l'impression qu'il a surtout atteint sa plénitude en étant beaucoup plus dans l'axe comme point de fixation, en une remise, en une deux, un genre de comme ce que pouvait faire Giroud à une époque, mais en beaucoup plus vif, et surtout je te fais une remise et après je pars dans le dos de la défense. Giroud c'est je te fais une remise et j'ai pas la mobilité pour, mais c'est pour ça que je me pose sur des questions sur l'utilisation de Lacazette. Si Giroud arrive à se remettre dans le mix et qui redevient titulaire, je sais pas trop où foutre Lacazette, mais ça dépend aussi de l'avenir de Sanchez. J'espère juste que Lacazette va pas être gâché parce que Wenger le voit plus loin du but, quoi. Je pense que ça lui collerait pas trop.
On va sur Arsenal, dernier petit mot quand même. Le fait de faire une défense à 3 avec deux joueurs qui sont des latéraux, c'est assez problématique. Alors au-delà du fait que Arsenal ne sait pas défendre les corners comme Liverpool et que c'est Honnêtement, je sais pas s'il existe un poste dans des clubs. Bon, c'est à Pascal Grosbois notamment, spécialiste coup de pied arrêté, mais des gens qui font vraiment dans tous les clubs que analyser les coups de pied arrêtés et corners défensifs. Mais je pense que même des clubs amateurs seraient choqués de voir la manière dont ça défend, à la fois sur l'intensité dans le jeu aérien, sur la couverture de la zone.
De toute façon, c'est une zone intégrale, Arsenal, je crois.
Ouais, je pense que tu pourrais faire un test.
C'est un bordel intégral.
Ouais. Tu pourrais faire un test, tu sais, comme des séances d'entraînement où tu fais juste des corners, tu fais attaquer Monaco et défendre Arsenal. Je pense que tu fais 50 corners, il y a 45 buts. C'est incroyable. Donc, c'est pas l'aspect le plus sexy du foot, mais on le voit notamment avec Monaco qui là marque 3 buts sur coup de pied arrêté par match. Au-delà, c'est bien de parler du 3-4-3, de questionner sur le rôle de Danny Welbeck avec Lacazette, etc. Mais si tu sais pas défendre un corner et que tu prends deux buts sur corner à chaque match, va quand même falloir marquer 3-4 buts à chaque fois pour gagner.
Quand tu vois l'importance et la proportion des buts sur coup de pied arrêté, ça devrait être obligatoire. Un spécialiste de championnat dans chaque équipe professionnelle, quoi. C'est comme si tu me disais qu'en, je sais pas, en NFL, il y aurait pas de kicker, tu vois, que ce serait un mec qu'on prendrait comme ça, qui passe autour du stade. Ouais, t'as déjà tapé dans un ballon, vas-y, viens, tu vois. Enfin, ça me paraît tellement capital aujourd'hui, et notamment par exemple sur des matchs aller-retour en Ligue des Champions, que ne pas avoir un spécialiste ou avoir juste genre l'entraîneur des gardiens qui s'occupe de ça, ça me paraît fou, quoi.
Après, tu sais, il y a des clubs qui recrutent Paulinho sans l'avoir vu jouer.
Ça fait partie de l'utilisation des ressources complètement irrationnelles dans le football aujourd'hui, malgré tout le côté professionnel qu'on veut nous vendre, quoi.
On enchaîne, on va aller en Serie A. Avec quelques questions avant de parler des équipes qu'on va suivre. Première question d'Elio Gusti. Alors, elle est pour Raphaël, celle-là. Est-ce que c'est le début de la fin pour la Juve ?
Oh là, c'est une question compliquée, ça. Non, je pense pas que
la Juve qui a perdu la Super Coupe, là, 3-2, je crois, contre la Lazio.
Écoute, en tout cas, c'est la dernière saison de Buffon, donc c'est la fin de quelque chose. Mais disons que c'est un peu comme le même problème que Liverpool, je pense, à une échelle moindre, c'est que les meilleurs joueurs de la Juve finissent toujours par partir pour aller plus haut, en tout cas depuis quelques saisons. Pogba, ça a été le cas. Qui je pense d'autres, j'ai oublié des joueurs. Enfin, Vidal a voulu partir au Bayern. Donc il y a ce problème-là. J'espère que Dybala restera un peu plus longtemps. Après, j'ai toujours confiance en Allegri pour savoir s'adapter. Je pense qu'il a montré depuis son arrivée à la Juve qu'il était assez fort dans ce domaine et que malgré les départs, il arrivait toujours à trouver une formule qui fonctionne. Là, il mise tout sur Matuidi, donc je pense que c'est peut-être en effet le début de la fin. Mais en dehors de ça, je vois pas de raison de s'inquiéter pour la Juve. Je pense que malgré toutes les qualités des autres équipes autour, ils sont toujours favoris pour le titre cette saison, malgré le départ de Bonucci. Ils ont une base qui est solide, ils ont des joueurs devant qui sont plus forts que ce qu'il y a en Italie ailleurs. Donc je m'inquiète pas plus que ça pour eux. C'est plus pas pour 2018, c'est plus pour 2019-2020 que je me pose des questions pour la Juve.
Christophe, sur cette question, sinon on passe à une autre, si c'est pour dire la même chose.
Oui, c'est à peu près pour dire la même chose. Ça risque de souffrir plus en Ligue des Champions parce que tu auras des attaquants un peu plus forts que ceux que tu as en championnat. Et Benatia, par exemple, c'est pas Bonucci. Et si tu remises définitivement la défense à 3, tu peux perdre en solidité, ce que tu gagneras pas forcément en percussion offensive. Après, l'habitude de gagner en Serie A, le respect que tu imposes, je sous-estime jamais l'habitude qu'a un groupe de gagner et de savoir faire un zéro quand il faut. Et même si les adversaires se sont renforcés, il faudra que la mayonnaise prenne, il faudra que les automatismes se fassent. Là, ce groupe-là, l'habitude du coach, c'est ce qu'il faut faire. La plupart des circuits offensifs et défensifs sont connus. Il y aura quasiment aucune évolution. Donc je pense que le niveau moyen sera toujours à peu près le même. Tu auras toujours un Pjanic pour te mettre des coups francs. Je pense qu'en tout cas la Juve, si elle n'est pas championne, elle sera deuxième juste derrière le champion. Mais il n'y a pas d'effondrement à prévoir parce que tu perds simplement un joueur, aussi bon soit-il.
Deuxième question sur la Roma de Monsieur Mehdi. On va rester avec Christophe. Quelle évolution dans le jeu pour la Roma avec l'arrivée de Di Francesco ?
Sachant que Monsieur Mehdi doit beaucoup mieux connaître la Roma que moi, puisque c'est le spécialiste français du club. Di Francesco aime bien la possession, Je pense que si je vais pas m'avancer dans une analyse trop, trop technique et que je me fasse reprendre de volée parce que je raconte n'importe quoi, mais je pense que par exemple, ce qui peut changer, ça va être le rôle d'un N'Golan qui, à mon avis, sera un petit peu moins amené à faire son Paulinho, à faire le piston et limite jouer parfois une espèce de faux numéro 10. Sans le côté meneur, mais en tout cas dans une position très avancée qui lui permet de conclure les actions, parce que c'est un très bon finisseur. Je pense que ça va être un petit peu plus patient. Après, il y a des questions. Le recrutement de Monchi, a priori, a toujours été, enfin même s'il fait des erreurs à Séville, c'était quasiment tout le temps positif. Là, il y a quelques paris ou demi-paris. Paris Gonalon, qu'est-ce que Gonalon va aller faire à la Roma? Est-ce que c'est juste comme grenier pour faire le nombre et le faire entrer une fois de temps en temps? Est-ce que Karsdorp, qu'on a vu notamment en sélection contre l'équipe de France, est assez énorme? Mais moi, je ne suivais pas spécialement le championnat néerlandais, donc je ne sais pas si c'était son niveau réel semaine après semaine. Est-ce qu'il est capable d'être un joueur qui bonifie cette équipe? Je crois qu'en plus il est blessé. Kolarov, c'est vraiment de la fin de carrière. Que va faire Kolarov dans cette équipe? Est-ce que c'est juste pour renforcer le banc ou pas? Pareil, De Frel, bon attaquant, un petit peu, je compare un petit peu à Tereo dans ces attaquants de Serie A qui vont marquer 10-12 buts par an sans être des stars. Mais là, la Roma, c'est pas Sassuolo, donc même s'il connaît le coach, il peut faire relais. Est-ce qu'il va être capable de mettre 10-12 buts pour la Roma, ce qui n'est pas tout à fait pareil? Il y a quelques interrogations, mais le coach a le profil, c'est un ancien joueur, c'était peut-être le coach qui maximisait le plus les talents de son équipe avec Sassuolo. Tout est réuni pour faire une bonne saison. Après, qu'est-ce que tu appelles bonne saison? Est-ce que c'est faire troisième avec 70 points ou est-ce que tu vises le titre?
La saison dernière, ils ont fait une saison assez énorme en termes de chiffres, la Roma quand même. Spalletti est parti en mauvais terme et ils font deuxième du championnat, mais ils étaient à plus de 85 points, je crois, qu'ils étaient à pas loin de 90 buts marqués. Et tu as perdu Salah qui t'a amené quand même une capacité à créer des occasions et marquer qui est dans les tout meilleurs d'Europe.
Ouais, Salah, Rudiger, les deux.
Ouais, c'est ça. Donc Salah, je pense que c'est plus grave que Rudiger, hein, pour avoir vu jouer Rudiger plusieurs fois. Mais tu perds beaucoup offensivement et ça va être difficile de remplacer ça, surtout qu'en effet, les joueurs que tu as cités sont sympathiques, Christophe, mais c'est pas du top de top.
On enchaîne, question de Germain qui vous demande votre avis. On va commencer par Raphaël cette fois sur le mercato du Milan AC. On avait parlé un petit peu déjà.
Oh là, putain, attends, je vais ouvrir rapidement la page Transfer Market parce que.
En vrac, il y a du Ricardo Rodriguez.
Je l'ai sous les yeux là. Tu le veux?
Bah écoute, dis-moi les joueurs.
Vas-y, je te dis des noms et
tu dis oui ou non.
Ouais, Lucas Biglia au milieu, numéro 8, 6-8 quoi.
Tu peux lire le journal avant qu'il fasse sa passe, mais c'est un bon joueur. Hein.
Voilà, bon, t'as Bonucci qui...
Non, ça c'est un top, c'est le meilleur recrutement du Milan, clairement.
Il y a Borini, je réponds à ta place, c'est non.
C'est non, ouais, pour l'avoir vu à Swansea, il y a Liverpool, c'est non.
Salanoglu, qui peut...
Ça, super joueur, je pense qu'en plus j'ai l'impression qu'il a été un peu passé under the radar ce recrutement, là, alors que c'était un des meilleurs joueurs de Bundesliga depuis 2 ans.
Sinon, Kessié, qui est aussi assez prometteur, lui plutôt ouais. Numéro 8, très
gros
physique.
Talent, gros talent de l'Atalanta de Gasperini. Alors, c'est un peu je dirais que c'est un peu le même registre que N'Golan début de carrière. Quoi. C'est un mec qui peut aller marquer des buts, mais qui va aussi gratter beaucoup de ballons. Mais c'est que des bons joueurs, hein. Les joueurs qu'ils ont recrutés, franchement, il y a peu d'erreurs. Quoi.
Puis ils ont ciblé des profils, ils n'ont pas pris 5 attaquants. Quoi. Ils ont pris, les deux derniers, je vais te les citer, c'est Ricardo Rodriguez, le latéral, et André Silva en pointe.
Non, mais Ricardo Rodriguez, c'est plutôt étonnant parce qu'il n'y a pas tellement de bons latéraux gauche sur le marché et j'ai l'impression que des clubs l'ont laissé filer assez tranquillement. Quoi, 18 millions, 15 millions, c'est pas non plus une somme énorme quand tu vois les prix qui s'envolent.
Il est assez jeune en plus.
Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, en plus, moi je pense que tout ce qu'on a oublié là dans cette histoire, c'est que le coach est plutôt pas mal. Quoi. Vincenzo Montella, ce qu'il avait réalisé à la Fiorentina, en termes de qualité de jeu et de résultats, c'était séduisant et il est passé tout près d'accrocher la Ligue des Champions à plusieurs reprises avec la Fiorentina. Qui d'ailleurs depuis part un peu en vrille avec des gens impliqués qui sont pas forcément là pour le sportif. Donc je suis content que ce mec ait retrouvé un club où il va avoir des gros moyens à sa disposition et une équipe qui franchement fait un peu peur hein, pour la Serie A. La question, c'est, tu l'as dit, c'est tout à l'heure, est-ce que là Jiménez va prendre et combien de temps il va falloir qu'elle prenne quoi. Alors, par contre, ils ont fait des bons résultats en préparation, dont une claque je crois contre le. Je sais plus si c'est le Real ou le Barça, où il y a une 3 ou 4-0. Le Bayern, Bayern. Après, le Bayern s'est pris plusieurs fessées en préparation, mais il y a tellement de talent que je suis pressé de voir ça, et je pense qu'en Europa League, par exemple, c'est une équipe qui peut faire des choses.
Bon, eh bien, on va terminer avec les équipes à suivre. Je pense qu'on en a cité pas mal, mais il y en a une qui manque, c'est Naples.
Mais il y a eu peu de changements à Naples finalement.
Ouais, il y a eu très peu de changements, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir la suivre d'un peu plus près, parce que Juve qui va pas s'effondrer, mais qui est peut-être un peu plus touchable que l'an passé. Il y avait pas beaucoup d'écart. Je crois qu'avec Naples, les confrontations directes l'année dernière, c'est toujours assez intéressant. Ça se jouait à du 1-0 ou du 2-1 ou des matchs nuls dans mon souvenir. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être l'année ou jamais en fait pour l'équipe de Sarri, non ?
Bah, il y a aussi ce barrage de Ligue des Champions contre Nice,
qui
va être important. Mais c'est vrai qu'il y a un effectif de qualité. Alors peut-être un peu court pour jongler entre les trois compétitions que les clubs italiens disputent. Mais c'est vrai que t'as un 11 qui est énorme, où les joueurs progressent sans interruption. Et puis surtout, t'as un style de jeu qui est digne, pas en termes de qualité des joueurs, mais en termes de style, de visuellement, quand tu vois jouer, c'est le Barça des meilleurs moments de Pep. Hein. Moi, je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment en termes de jeu pratiqué et de plaisir quand tu la regardes jouer.
Par contre, vraie question, Florent, toi qui en pose, mais qui répond peu depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais de Mertens Milik, de profil totalement différent? Milik, beaucoup plus finisseur, qui participe moins au jeu, alors que Mertens, c'est un ailier recentré limite, c'est même pas faux numéro 9, quoi. Il joue limite pur numéro 9, même s'il participe beaucoup au jeu et qu'il peut se délocaliser. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu remets Milik, qui avait super bien commencé la saison avant de se péter, ou alors est-ce que tu mets Mertens, qui marque, je sais plus, 28 buts en 30 matchs ou quelque chose comme ça?
Je pense que l'adversité va jouer beaucoup, c'est mieux, parce que là il a l'avantage. Après, je trouve que Milik, c'est un attaquant aussi qui peut quand même s'associer et participer au jeu. Il l'avait fait avec la Pologne à l'Euro, là. Moi, je l'ai trouvé très intéressant dans ce rôle-là.
Il jouait à deux devant aussi, donc c'est un
Oui, ça jouait à deux à ce moment-là. Mais je pense que le fait d'avoir ces deux joueurs-là, l'avantage, c'est que Mertens, il peut toujours le remettre sur un côté à un moment donné s'il en a besoin, et s'il a besoin de mettre les deux devant. Parce que je pense qu'il ne sortira pas de son 4-3-3 qui fonctionne quand même très bien, et où il a les postes, voire les doublures à certains, parce que c'est vrai que l'effectif est un peu court. Mais je pense qu'il a un avantage, c'est que en schématisant à outrance, face à un bloc haut, tu vas mettre Mertens, face à un bloc bas, tu vas mettre Milik. Mais c'est vraiment
une caricature. Face à la meilleure équipe du monde, tu mettras Adamounas.
Voilà, évidemment, ouais, s'il se blesse pas. D'ailleurs,
c'est le recrutement star de cet été pour le Napoli.
Bah oui, c'est vrai. C'est sûr qu'ils ont claqué le plus. Et il avait fait une bonne prépa, et puis il a rencontré Diego Godin en fin de préparation. Bon, a priori, c'est pas très grave ce qu'il a eu, mais c'est dommage, parce que j'aurais aimé le suivre de près.
Sur Mertens, Christophe l'a dit, mais il fait je pense que les gens qui suivent la Serie A le savent, mais il fait une saison qui restera, je pense, dans l'histoire de la Serie A en termes de chiffres.
Oui, il est passé sous les radars, lui aussi.
Mais il finit à une trentaine de buts, comme dit Christophe, et je crois qu'il est à une dizaine de passes décisives. Et en termes de qualité, quand il, en fait, c'est, comme l'a dit Christophe, il joue comme un neuf, mais avec les qualités d'un ailier de percussion, et c'est hyper impressionnant à voir. Christophe, qui connaît bien le Barça de Cruyff à l'époque, ça me fait penser un peu au rôle de, avec toute proportion gardien, au rôle de Romario un peu. C'est-à-dire que c'est un mec qui prend le ballon, il va éliminer deux mecs juste parce qu'il va très vite, et il va finir très proprement, quoi. Et c'est très rare, ce genre d'attaquant aujourd'hui. On pensait qu'avec l'avènement de Messi il y a quelques années, les neufs de ce profil, ça allait marcher, les neufs qui peuvent participer, qui peuvent décrocher, qui peuvent partir très vite. Et finalement, il y a eu peu d'exemples de ce type depuis, et Mertens fait partie des rares qui fonctionnent dans ce profil-là.
On va terminer avec la Bundesliga, ouais, Raphaël. Un championnat qui reste assez obscur là pour l'instant. On a un peu parlé du Bayern pendant l'été avec le Mercato, avec beaucoup de milieux. Le Bayern qui a passé quand même une préparation très difficile. Mais bon, c'était aussi le cas du PSG, et puis ils avaient très bien démarré la saison. On en a parlé en tout début d'émission. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut suivre en Allemagne? Personnellement, moi, je suis un peu largué sur ce qui s'est passé. Dortmund va sans doute s'affaiblir avec le départ probable de Dembélé. On va voir. Ça doit se régler avant le 26 août, à demander la direction. Puis après, sur les autres équipes, il y a peut-être Hoffenheim à voir l'évolution avec Nagelsmann.
Un barrage important de Ligue des Champions contre Liverpool.
Contre Liverpool, ouais. Et voilà. Mais après, c'est vrai, Leipzig, est-ce que ça va confirmer ou pas? Et pour l'instant, ils ont gardé leurs joueurs. À voir si ça va durer jusqu'au 31 août aussi. Mais c'est vrai que c'est, ça reste un peu vague. Il y a pas mal d'équipes en fait qui pourraient se faire piller d'ici la fin du mois.
Ouais, bah après il y a un banc d'entraîneurs à Schalke, il y a Leverkusen qui est une interrogation parce que des joueurs sont partis et c'est vrai que moi depuis le départ de Roger Schmidt, je les ai pas trop suivis. J'aimais beaucoup ce coach et je suis déçu un peu de voir qu'il sera plus là. Mais c'est un championnat qu'on n'a pas trop l'occasion de regarder déjà parce que je trouve que les horaires sont toujours en conflit avec un truc plus proche de nous, souvent avec la Ligue 1 d'ailleurs. Et c'est aussi le problème de la Bundesliga en France, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un horaire où ils seraient seuls sur le truc.
Je pense que multiplex, hein, quasiment tout le monde joue en même temps le samedi à 15h. Donc
ouais,
si tu choisis de regarder un match, bah forcément t'auras 6 autres. Quoi.
Puis t'as toujours des horaires, c'est toujours du 15h30 ou du 18h30 quand c'est un match unique. Donc c'est un peu le casse-gueule entre deux matchs, entre le match de 17h en Ligue 1, parfois le multiplex de 20h, les matchs de Première Ligue. Donc c'est vrai que c'est un peu de notre faute aussi de pas regarder, mais c'est un championnat où on, par exemple, on connaît très bien les équipes intermédiaires en Liga et en Serie A. En Bundesliga, je t'avoue que tu me demandes comment Cologne a joué la saison dernière.
Et on nous a demandé. On nous a demandé, Juju qui nous a demandé, donc voilà.
Alors, on ne sait pas, écoute, je ne sais pas ce que Cologne donnera sans Anthony Modeste, mais Dortmund, pareil, interrogation, qu'est-ce que ça va devenir sans Dembélé. Moi, je trouve que Peter Bosz est un entraîneur qui a un beau CV, mais quand je vois ses équipes jouer et quand je vois le style de jeu, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est du jeu de possession ultra, ultra prévisible et répétitif. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se passer à Dortmund. Je pense que Tuchel est toujours d'ailleurs un des meilleurs coachs en Europe. Et c'est dommage que la Bundesliga ait perdu et Tuchel et Schmidt en quelques mois. Donc je t'avoue que c'est un championnat où si le Bayern ne développe pas un jeu très ambitieux et très intéressant, je vais devoir faire un choix et je pense que la Bundesliga sera perdante de ce choix cette saison.
Christophe ?
Alors, contrairement à Raphaël, pour moi la sentence ne sera pas irrévocable. Il y aura quand même 2-3 survivants de Bundesliga. Je pense que le principal club que je vais suivre, alors au-delà des... Enfin, dire, il y en aura 3, c'est forcément le Bayern pour voir si ça va passer un cap, parce que malgré tout, avec Ancelotti, on a perdu ce qui faisait une partie de la force des équipes de Guardiola, mais sans gagner ce qui fait la force des équipes d'Ancelotti, même si tu aurais très bien pu gagner la Ligue des Champions, mais globalement, l'équipe était assez décevante, il n'y avait pas l'intégration des jeunes, Thomas Müller complètement... Alors, est-ce qu'il était mal utilisé, ou alors est-ce que c'était sur la lancée de son euro, ou simplement il n'était pas dedans, je ne sais pas, mais Thomas Müller a fait une saison totalement détestable. Sinon, bah, bien sûr, Dortmund, voir est-ce que ça va changer, Tuchel avait mis quelque chose en place, est-ce que tu vas rester là-dessus, ou est-ce que, comme dit Raphaël, tu vas gagner en possession, mais perdre un petit peu en percussion. Parce que c'est vrai que Bosz, même s'il amène l'Ajax en finale de Ligue Europa, il y a quand même toujours l'interrogation de la préparation de sa finale où il a choisi absolument à jouer au sol alors que enfin à faire exactement ce qu'attendait Manchester et à se faire prendre dans les airs par la déviation de Fellaini, chose que nous et à peu près tout le monde avait vu venir 15 km et à 15 km. Donc il y a une vraie question sur la capacité pour moi de Bosz à vraiment bien préparer ses matchs. Alors qu'à l'Ajax, tu as quasiment la meilleure équipe ou l'une des 2-3 meilleures équipes, donc tu n'as pas de risque de tomber hors du top 5. Là, ça sera, il y aura un petit peu plus de concurrence. La vraie interrogation pour moi, c'est Leipzig qui fait une super saison l'an dernier, même si à la fin, ils sont un petit peu cramés parce qu'ils font que courir tout le temps. Donc, même si c'est que 34 matchs, au bout de la 28-29e journée, ça devenait un petit peu difficile, surtout que l'effectif est un petit peu court. Est-ce que Leipzig, c'était la surprise d'une saison qui a surpris tout le monde avec un dispositif, une espèce de 4-2-2-2 empilé où ça courait de partout
à la Leverkusen finalement.
Ouais, et où Forsberg faisait, je crois qu'il fait 18 passes décisives l'an dernier, une saison assez incroyable. Est-ce que c'était simplement le temps que tout le monde s'adapte et que cette année tout le monde saura comment il joue avec des transitions ultra rapides, avec Naby Keita essentiel au milieu qui n'hésite pas, limite en position de numéro 6, à partir dans les chevauchées pour terminer aux côtés des attaquants? Ou alors, est-ce que c'est un système de jeu qui, vraiment, sur la durée, peut perturber, comme le jeu de possession de Guardiola a perturbé? Voilà. Est-ce que c'est une vraie... est-ce qu'il y a un contre-modèle à ça et les équipes de Bundesliga vont rapidement le trouver? Ou alors, est-ce que c'est une équipe qui est capable de durer et de devenir un concurrent sérieux au Bayern?
Et est-ce que Jean-Kevin Augustin va finir meilleur buteur de Bundesliga? T'as oublié cette question?
Ouais, j'allais y venir. Je ne pense pas, mais c'est de ce que je vois là, il y a un ou deux joueurs que je connais pas trop, mais je pense que c'est la deuxième plus grosse recrue avec Bruma de Galatasaray. qui, dans mon souvenir, était plutôt un joueur de côté. Donc, est-ce qu'il va pas faire de l'axe pour aller sur le côté? Je sais pas comment ça va s'organiser. Est-ce que ça va un petit peu ajuster le système? Ou alors, est-ce que c'est pour avoir des solutions supplémentaires si tu veux passer en 4-3-3?
Ça peut être comme aller vers Kuzan à une époque, c'est-à-dire que t'avais Çalhanoğlu qui rentrait et Bellarabi qui était plus sur le côté à percuter, quoi.
Ouais, surtout que Forsberg peut aussi aller sur le côté. Enfin, c'est assez flexible sur les deux. On va dire sur l'avant-dernier deux, quoi, pas sur les deux attaquants de pointe, mais sur les deux qui sont une espèce de position de milieu offensif. Eux n'hésitent pas à partir sur les côtés pour que notamment Naby Keita puisse aller plus verticalement occuper la position. Donc, vraie question, est-ce que Leipzig a trouvé un super système ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu peux assez facilement contrer? À voir. Mais Bayern champion, a priori. Hein. J'avais peur.
Voilà, comme d'habitude.
Un pronostic audacieux.
Bon, ben on va s'arrêter là. Hein. On est quasiment.
Alors, est-ce que je peux juste passer une petite équipe? Parce qu'on a parlé des premières divisions. Je pense qu'en Ligue 2, je vais suivre Lorient. J'ai déjà regardé deux matchs de Lorient cette saison. C'est plus de matchs de Ligue 2 que j'ai regardé la saison passée, et peut-être lors des cinq dernières années. Donc, c'est une équipe dirigée par Landreau, qui était de l'école, qui a été entraînée par Denoux à la grande époque, qui a l'air d'avoir un discours assez posé, qui a des joueurs pour pratiquer un football très séduisant, et sur les deux matchs à domicile qu'ils ont réalisés depuis le début de la saison, j'ai trouvé ça très très sympa. Jimmy Cabot fait un début de saison absolument énorme. Sylvain Marvaux est toujours aussi sympathique à voir jouer. Le petit Guendouzi au milieu, là, jeune joueur qui commence à percer, est pas mal. Donc il y a une occupation de l'espace hyper intéressante avec beaucoup tous les joueurs. Là, c'est un 4-4-2, mais avec beaucoup de joueurs à l'intérieur, avec Bouanga, avec Courté, avec Cabot, avec Marvaux à l'intérieur. Et c'est un 4-2-3 en plus, donc avec les latéraux qui sont sur les côtés, le Goff et les deux de côté, Steven Moreira, ancien international espoir, donc et Fabien Lemoine au milieu avec Guendouzi. Donc je suis curieux de voir cette équipe. Je pense que s'ils gardent tous leurs joueurs, ils devraient remonter en Ligue 1, et que s'ils le font pas, ce sera un gros problème pour Landreau, parce qu'il a tout pour monter et tout pour bien jouer au foot. Et ça, j'aime bien voir des équipes comme ça qui pratiquent un jeu intéressant dans des divisions inférieures, et Lorient a l'air d'en faire partie pour le moment.
Et ben on verra ça. On s'arrête là avec 1h30, 90 minutes de jeu, c'était pas mal pour une deuxième. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise pour ceux qui vont suivre les reprises de Liga et de Serie A le week-end prochain. Et puis nous, on se retrouvera justement la semaine prochaine pour parler peut-être de ça, peut-être de Ligue des Champions aussi sans doute, avec Naples-Nice. Je pense qu'on va forcément y passer. Et puis voilà, hein. Salut!
Ciao!
Cordialement!